Dans le tempo, c'est l'épisode 15. On est parti. Vous êtes dans le tempo, bienvenue, DLT, c'est le podcast des passionnés de toutes les musiques, vous le savez. Vrais gens, vraies discussions, ils le savent, hein, Michel.
Ils le savent. Même moi, je le sais. Que trop bien.
Vraiment, on essaye voilà, de partager avec vous notre passion pour la richesse de l'univers musical. Et après des épisodes dans lesquels on a parlé, Michel, de rap, de musique électronique, de transmission, de jeux vidéo, d'industrie musicale, plein d'autres thèmes, eh ben, il fallait quand même qu'on s'attaque à un nouveau gros morceau. À savoir le métal. Et je dis on, vous l'avez entendu parce qu'évidemment je suis avec mon acolyte Chronomusique.
Bonjour.
Ça va Michel ?
Pas Banks. Je dors énormément. J'arrête pas de dormir. Donc ça va super
c'est
bien.
C'est faux.
Je suis très
faux.
Reposé. Je consomme très peu d'energy drink.
Mais surtout, est-ce que tu prends pas trop la grosse tête à force de traîner là avec la jet set parisienne ? Ça tape des sessions stud à gogo, ça raconte des stars.
La grosse tête, Salman.
T'as toujours la grosse tête, c'est vrai.
Ça ne peut pas aller plus gros. Donc là, ici, non, vraiment, j'étais à mon max déjà depuis quelques années. Non, là, ici, je me sens bien. On se fait des bisous avec mes nouveaux meilleurs amis. On prend très peu de coke et j'ai vu très peu de putes. Donc,
c'est plus que
faudrait,
c'était.
Faudrait qu'on fasse un épisode sur la jet set, peut-être.
Absolument.
Mais non, ça se passe très, très, très bien. On est avec Maxwell ici, de la chaîne YouTube Maxwell, anciennement Two Guys One TV. Est-ce que je dis de la merde en disant ça?
Non, okay. Non, je pense que jusque-là, c'est bon, mais fais gaffe.
Je vais faire très attention à ce que je vais dire. Donc, tu crées du contenu autour du métal depuis une dizaine d'années.
Ouais.
T'es un peu une figure de proue dans le milieu, d'ailleurs, je te dis. Tout à l'heure en off que moi il y a 4 ans j'avais fait une vidéo qui parlait de métal et un tiers de mes commentaires c'était tu parles de métal, tu parles même pas de Two Guys One TV, voilà. T'es une grosse merde ou quoi?
Il y a la commu toxique qui est venue te casser les couilles.
C'est peu ou prou ce qu'on m'avait dit. Donc la chaîne YouTube existe déjà depuis 10 ans, t'as publié un bouquin chez Gallimard qui s'appelle Codex Metallum, l'art secret du métal, donc ça parle de la symbolique dans le métal si j'ai bien compris.
C'est ça, coécrit avec Alt236 le sang.
Juste le boss.
Le grand Alt236.
Ouais. Très, très BG avec ça pour ceux qui l'ont déjà vu. En vrai, vous le savez. T'es aussi à l'origine de Horns Up, qui est un webzine autour du métal.
Ouais, j'ai cofondé Horns Up il y a quelques années. J'en fais plus du tout partie, mais ouais, c'est ça.
Ok. T'en fais plus partie du tout, t'alimentes plus.
Non, j'ai rage quit. J'ai rage quit.
On en parlera peut-être tout à l'heure, peut-être de sombres histoires, de sombres anecdotes.
On parle là-dedans.
Aussi,
okay.
Non, je dis ça comme ça.
On n'est pas sur Twitter ici, monsieur Chronomusique, on se calme.
Donc, t'étais chroniqueur à la radio et dans des webzines, dont Métallurgie.
C'est ça.
T'as parlé de métal de sexe?
Oui, exactement, c'est ça. Métallurgie, oui, ça vous avez remonté jusque là. Bah oui, j'ai été chroniqueur chez Métallurgie quelques années.
C'est tout le mérite revient à Salman, hein. Là, vraiment.
Non, mais quel boss.
C'est surtout, il faut qu'on comprenne un peu qui tu es et ta légitimité quand même. Ouais. Ici, on reçoit que des gens légitimes, experts, passionnés.
Ouais. Mais ça se voit que t'es le cerveau de l'équipe de toute façon.
Oui, bah oui, non, mais ça pourrait pas être moi, on va pas se mentir. Et puisqu'on parle de légitimité, t'as une autre corde à ton arc qui construit aussi, je pense, une espèce de légitimité autour de toi, qui est que tu fais aussi de la musique sous le nom Bataille.
C'est ça.
Tu définirais ça dans quel sous-genre de métal?
Alors là, c'est compliqué parce qu'on aborde direct le sujet des étiquettes. Moi, je dirais qu'au niveau des influences, t'as du métal atmosphérique, du black metal et du dungeon synth,
okay.
Qui est pas vraiment du métal, mais qui est une branche lointaine du métal.
Ouais.
Donc voilà. Après, c'est pas 3 mois de le dire ça, mais en termes d'influence pour ce projet-là, je dirais qu'on est dans ces eaux-là. Un petit peu de heavy metal mélodique aussi, peut-être.
Ok. Bon, on reviendra là-dessus peut-être en détail tout à l'heure. En tout cas, merci d'être avec nous, ça régale, comme on dit sur Internet.
C'est clair.
Ça fait plaisir d'être invité dans un média hors métal pour une fois. Direct répondu oui. En plus, depuis l'invitation, je me suis mangé tous vos épisodes et ça tue. Franchement, bravo les gars. Ça fait du bien de voir ça sur YouTube. Donc continuez comme ça et c'est un plaisir d'être là, franchement.
Merci. Il faut quand même rajouter un élément à ta bio qui m'a marqué. C'est que tu kiffes la légende de Thor sur Mega Drive et globalement les RPG de Mega Drive.
T'as vraiment creusé le lore Maxwell, c'est incroyable.
Et là, oui.
Ah là
je
là
dis
là.
Oui. Story of Thor en anglais.
Ouais, qui n'a rien à voir avec Thor, le dieu scandinave d'ailleurs.
Absolument. C'est plus un trip un peu oriental.
Totalement, ouais. C'est un action RPG qui se passe dans un décor un peu oriental. On va récupérer des élémentaux, tout ça, c'est hyper stylé.
Trop bien.
D'ailleurs, ouais, on parlait de Bataille. Je pense qu'en fait, la première influence de Bataille, c'est la musique de jeux vidéo, des RPG des années 90. Gros fan de Nobuo Uematsu aussi. Hein.
Ah, la base.
Et, voilà, il y a des liens à faire avec tout ça. Et ouais, ouais, bah, c'est peut-être mon action RPG 16 bits préféré, là, Legend of Thor.
Parfait, parfait. Bon, en tout cas, plaisir de te recevoir pour discuter de métal, et notamment parce que tu as la particularité d'être en dehors des guerres de chapelle. On y reviendra. Est-ce que c'est réellement une réalité? Est-ce que c'est plutôt du mythe? Mais on a l'impression que parfois c'est segmenté le métal. On en discutera ensemble. Et donc, ouais. Toi, j'ai l'impression que tu essaies d'avoir une vision un peu plus globale de ce genre quand même. Voilà. Et je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec une première partie justement un peu dédiée à la nature, entre guillemets, du métal, à son identité. Et première question peut-être, on va pas demander une définition comme ça du métal, mais qu'est-ce qui caractérise quand même le métal? Quels éléments permettent... On entend une musique et toi tu vas te dire, oui effectivement, je peux caractériser cette musique de métal parce qu'il y a des éléments. Et ouais. Est-ce que c'est des sonorités, du visuel, un état d'esprit, voire un discours? Qu'est-ce qui pourrait permettre de qualifier le métal?
Première vaste question.
Ouais,
bien sûr. Ouais, ouais, je pense, moi je dirais, tu vois, je te répondrais comme ça, ce serait le côté viscéral de la musique. C'est-à-dire qu'effectivement, dans le métal, tu peux avoir des choses très très sombres, très violentes, comme des choses un peu plus douces, un peu plus mélodiques, un peu plus atmosphériques. Mais globalement, t'as toujours ce truc un petit peu viscéral, une espèce d'énergie, bon, qui passe forcément par une guitare saturée, par souvent un chant hurlé. Peut-être un peu moins dans le heavy metal où ça va plus être un chant mélodique, voire un chant très très haut. Mmh. Ouais. Mais globalement, ouais, je dirais ce côté viscéral. Je me rappelle qu'au lycée, j'essayais de faire adhérer un copain qui était très éclectique, mais j'essayais de le faire adhérer au metal, mais il y arrivait pas. Tu vois, il écoutait de tout sauf du metal. Et en fait, il m'a sorti un truc qui m'a fait rire et j'y pense encore aujourd'hui. Il fait non, mais techniquement le metal c'est cool. Je pense qu'il y a plein de trucs, mais c'est trop. Il m'a juste dit ça, il m'a fait c'est ouais, trop
une tension,
un truc, il y a une espèce de tension, une espèce d'énergie qui fait qu'il adhérait pas, ce que je peux comprendre. Après, ce truc là de tu l'auras pas forcément dans des trucs de métal, on va dire progressif, tu vois. Il y a des choses dans le métal progressif qui sont très légères, très douces. Parlons de Devin Townsend par exemple, qui est un des plus grands artistes de cette niche de métal, qui a fait un album qui s'appelle Ghost. Et qui en fait c'est juste des nappes atmosphériques avec des petits synthés, des petites guitares acoustiques. T'as l'impression que le mec est en train de jouer dans la nature. Bah y a pas trop ce côté viscéral. Bon après cet album,
même si quand il chante, c'est un mec qui s'écriait par exemple.
Ou alors là voilà, c'est un mec qui s'écriait, mais dans cet album c'est une exception pour le coup. C'est un album qui est beaucoup plus doux, beaucoup plus mélodique. Mais cet album, est-ce qu'on peut le mettre dans le métal pour le coup? Je pense pas. Mais c'est un album qui fait partie de la discographie d'un artiste métal. Mais voilà, je pourrais peut-être résumer pour répondre rapidement, parce qu'on pourrait déblatérer sur ce sujet-là pendant des heures. Je dirais, c'est ce côté viscéral, ce côté un petit peu... Il y a un côté où ça vient des tripes, quoi, tu vois. C'est pas une musique qu'on prend à la légère. D'ailleurs, c'est pour ça que le métal est accompagné souvent dans le lifestyle. T'as le look métal, t'as un état d'esprit un petit peu métal. C'est un truc de niche, quoi. C'est-à-dire que même si le métal commence de plus en plus à arriver sur des scènes de festivals plus éclectiques, ça reste quand même, voilà, si tu veux aller écouter du métal, faut aller dans des festivals spécialisés la plupart du temps.
Mais t'as le droit d'écouter du métal et de pas faire ça en passant la langue ou quoi?
Le problème, c'est que tu te fais complètement éclater la gueule si tu oses faire ça.
Let's go!
Non, mais en plus, le Hands Up, ça a été repris par les rappeurs maintenant. C'est beaucoup plus. Les rappeurs font autant le hands up que les fans de métal maintenant. De... Et après, oui, bah, le hands up, ça fait partie des codes, voilà, qu'on peut trouver un petit peu rigolo. C'est vrai que, bon, c'est. Parfois, c'est un petit peu.
C'est Ronnie James Dio qui serait à l'origine de...
Alors, Ronnie James Dio, il a popularisé le hands up, mais la première à l'avoir fait sur scène et à l'avoir fait sur des pochettes d'albums, c'est Jinx Dawson, en fait, qui est la chanteuse du groupe Coven. C'est un groupe de rock psyché sataniste des années 60-70, qui est beaucoup moins connu que Black Sabbath, du coup, ou que Dio, mais voilà, qui a eu sa petite marque, sa petite empreinte dans la musique extrême, on va dire, ne serait-ce que par l'imagerie qui était totalement sataniste sur le premier album. Ils ont changé après pour vendre plus d'albums, mais il y avait déjà ce côté théâtral. Les paroles, ça parlait que de Satan. L'album se clôturait par une messe sataniste. Voilà. Et en fait, sur la pochette d'album, les musiciens font le horns up. Et elle, sur scène, faisait le horns up. Voilà. Et pourtant, c'est un truc qui date de la fin des années 60, donc quelques années avant Black Sabbath, quand même.
C'est dommage que j'aime bien la légende autour de... C'est Ronnie James Dio qui...
Il l'a popularisé, quoi. C'est sa grand-mère qui faisait ça pour éloigner les mauvais esprits.
Exactement. Ouais. Mama italienne, très superstitieuse, etc. Ça, ouais. Et qui fasse un truc qu'elle considérait comme diabolique, etc. Faisait le signe et lui l'aurait repris comme ça. Bon,
incroyable.
C'est... Ouais, ce qui est marrant, c'est qu'il a grandi dans un contexte très religieux. Mmh. Et au final, sur scène, il invoquait le diable, quoi. Tu vois.
Ah, mais alors, justement, parce que tu vois, tu dis que parmi les caractéristiques de ce genre, il y a une approche quand même assez sérieuse. On se prend au sérieux. Et en même temps, tu as parlé de théâtralité, par exemple. Et c'est un truc qu'on retrouve beaucoup, du Alice Cooper et compagnie, puis plein d'autres l'ont repris. Est-ce qu'ils se prennent tant au sérieux que ça? Je pense aussi à dans le heavy metal. Alors, ça a été parodié par un groupe comme Steel Panther, mais il y a toujours eu aussi ce côté un peu fun. On rigole quand même autour. Et je pense qu'on peut quand même qualifier ça ça reste du metal, le heavy, quoi.
Ouais.
Est-ce que c'est si clair que ça, que ça soit si viscéral, sérieux, sombre, etc.?
T'as les deux.
Ouais.
Franchement, t'as les deux. T'as des groupes qui vont énormément se prendre au sérieux. Ça, tu vas plus le retrouver dans le black metal généralement, un black metal assez orthodoxe, tu vois, qui va se baser un peu sur les pionniers norvégiens qui étaient très satanistes, très, tu vois, toujours aller dans la provocation et puis dans le très jusqu'au boutiste, en fait, dans cette approche de tout ce qui est anticlérical, anti-religion, tout ça. Donc t'as une part en fait de ces groupes-là qui se prend énormément au sérieux. Puis peut-être effectivement quand tu vas aller dans le heavy metal, le power metal et des styles un peu plus légers en termes de thématiques, et bah peut-être que là ça se prendra moins au sérieux, qu'il y aura du second degré. Tu vois, une fois qu'on a retiré le maquillage, bon bah en fait on fait la fête comme tout le monde, on essaye de se détendre un peu. Je pense que la question du satanisme et du on se prend sérieux dans le metal, elle a un peu été balayée d'un revers. Ces dernières années, en mode, mais non, en fait, les métalleux, tu vois, c'est des gentils bisounours rigolos qui se prennent pas la tête. Alors que, bah, pas tous, en fait, tu vois, pas tous. Et notamment, je repense aux scènes scandinaves et au black metal norvégien, tout ça. Bah, t'as des mecs qui sont à fond dans ce délire, qui vont développer toute une idéologie autour de ça.
Il y a notamment. Les églises.
Bah, c'est aller jusque-là, tu vois, même jusqu'à tuer des gens, tu vois. Il y a des gens encore, même si ça l'est de moins en moins, t'as encore quelques puristes qui restent, tu vois, et qui perpétuent un peu ce truc traditionnel, très orthodoxe de la première vague black metal. Et c'est pour ça qu'il faut le prendre au sérieux. Et puis t'as des choses un peu sales qui en découlent, quoi. Donc notamment on en a parlé, des meurtres, tout ça, que ce soit des John Notvaid pour Dissection, donc groupe suédois, que ce soit des Varg Vikernes, tu vois, Borzum, qui lui a carrément fini dans le nationalisme ultra vénère, tu vois, où t'as pas mal de dérives quand même autour du métal qu'on essaye de polisser en disant mais non, ça reste quand même une bande de gars sympas qui font la teuf. Alors oui, c'est le cas, c'est totalement le cas, mais derrière t'as eu aussi pas mal d'idéologies un petit peu controversées qui sont venues se greffer à tout ça et qui existent encore aujourd'hui dans la scène métal. Et je pense que juste dire que le métalleux est un nounours rigolo, bah tu vois, c'est un peu se voiler la face sur ce que peut être le métal parfois, quoi. Et ce qui fait qu'aussi, on évitera d'aborder certains sujets si on en reste à cette figure du métalleux un peu concon et simplet, qui écoute sa musique et qui bug dans un micro. C'est cette face-là aussi, elle existe, mais il y en a d'autres. C'est pluriel, en fait, tu vois, le métal, il a plein de faces. Selon la niche dans laquelle tu te trouves, selon si tu vas traîner avec des mecs plus ou moins underground, très pointus dans ce qu'ils écoutent, ou des mecs qui vont être plus là à écouter, tu vois, ce qui va passer sur les main stage du Hellfest, par exemple. T'as plein de façons d'aborder cette musique, t'as autant de façons d'aborder cette musique qu'il y a d'auditeurs potentiels, quoi, donc j'aime pas, en fait j'ai beaucoup de mal avec les gens qui vont essayer de donner une définition précise à ce qu'est le métal, parce que justement moi j'évite ça, j'essaie de le montrer à travers ma chaîne, justement en abordant un maximum de sujets, qu'en fait il y a plein de façons d'écouter de cette musique et il y a énormément de choses différentes dans le métal. Et tu vois, il y a encore 10, 15, 20 ans, on avait M6 qui faisait des reportages pour dire attention, en fait les métalleux c'est des zombies satanistes un peu nazis sur les bords. Et en fait, depuis l'arrivée du Hellfest et que le Hellfest a explosé en popularité, bah c'est devenu le métalleux, c'est devenu le mec un peu concon qui se déguise et qui rentre dans un micro. C'est ni l'un ni l'autre, je pense que c'est entre les deux. Les extrêmes existent, bien évidemment.
Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a des vagues de... Tu sais, genre, là, t'as une image globale de telle ou telle scène, et puis on va essayer de dire oui, mais non, vous avez ce cliché ça là, mais c'est pas que ça. Et puis, une fois que ces clichés-là sont, on va dire, un peu peu détruit pour... Ouais, exactement. Mais après, tu repars dans l'autre sens et ça, ça fait toujours un peu comme ça. C'est genre, oui, le métal, c'est trash, mais c'est aussi des gros nounours. Et puis, une fois que tout le monde dit que le métal, c'est des gros nounours, c'est oui, mais c'est pas que des gros nounours. Il y a aussi de la puterie. Et j'ai l'impression que ça... Il y a toujours... Mais après, c'est pas propre au métal, mais...
Ce qui est étrange et ce que je trouve dommage, parce que le métal n'est pas encore passé par là, alors que le rap, récemment, est passé par là, c'est qu'en fait, quand le sujet est abordé sur un plateau télé ou dans un média non spécialisé, en fait, on va toujours aborder les à côté. C'est-à-dire, on va toujours justement essayer de montrer une image précise, qui est bonne ou mauvaise, ou méchante ou diabolisée, enfin diabolisée ou gentille. Et pourquoi on parlerait pas juste de musique? Pourquoi on parlerait pas juste des artistes? Pourquoi on montrerait pas que justement c'est un vivier artistique complètement dingue, le métal? Pourquoi on est toujours obligé de passer par ces sujets un peu polémiques, alors qu'il suffirait juste, comme on le fait avec le jazz, avec la musique classique, aujourd'hui le rap. Après, le rap a lutté aussi pour en arriver là, il a fallu qu'il force un petit peu, lui tout seul, sur Internet a permis ça aussi, quoi.
On a gagné.
Aujourd'hui, voilà, le rap a gagné, et tant mieux, tu vois. Alors que le métal, on en est toujours, tu vois, à discuter de ces trucs-là, de est-ce que c'est legit, est-ce que c'est pas legit, est-ce que c'est des golemons, est-ce que c'est pas des golemons.
Mais ça me fait penser à la prochaine question, qui est au niveau justement des sous-genres, des étiquettes et tout ça, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a un peu la même dynamique de je sais pas comment dire, vouloir justement, c'est la vision que j'ai d'un point de vue extérieur, tu vois, mais peut-être se prendre fort la tête sur des détails, tu vois, que genre ça, il peut y avoir des conversations qui sont très premier degré sérieuses et qui peuvent devenir violentes sur genre est-ce que ça c'est du black ou du death ou du machin, etc. Ouais. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très passionné dans ce truc-là et pour enchaîner sur ce truc-là, est-ce que toi, tu penses vraiment qu'il y a une... Enfin, tu trouves ça légitime que dans le métal, il y ait autant de sous-genres par rapport aux autres genres musicaux, on va dire, ou... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie diversité, une pluralité beaucoup plus grande que dans les autres genres musicaux? Ou est-ce que, comme moi, t'as un petit peu aussi parfois l'impression que ça peut être aussi un petit peu de la branlée, tout quoi.
Alors, du coup, vu que j'en écoute et que moi-même, je suis assez précis quand je vais décrire un groupe, malheureusement, je vais aller à l'encontre de ce que tu dis. mais je trouve que les étiquettes sont assez légitimes parce que c'est ce qui permet de se repérer en fait dans l'arbre généalogique du métal, qui est quand même assez compliqué. Alors je suis d'accord avec le fait qu'il y a un côté très toxique dans la communauté des métalleux, où en fait si t'as eu le malheur de dire que c'était du black death industrial alors que c'était du black death moderne avec des synthétiseurs, tu vois, ce qui est pas exactement la même chose dans la tête de certains, ils vont mal te parler. Et enfin, ce que je trouve débile d'ailleurs, parce que c'est... J'ai l'impression que les métalleux, ils ont ce truc de... Ils sont tellement fiers d'avoir ça, tu vois, et pour certains d'avoir compris toutes les étiquettes et d'arriver à se repérer dans cette putain de table des matières, qui vont se la raconter un peu, tu vois. Ça renifle pas mal ses proutes, hein, dans cette communauté, malheureusement. Il y a toujours ce côté un petit peu aussi élitiste à la con, que moi, j'ai toujours un petit peu combattu ce truc-là. Mais par contre, je suis assez d'accord avec les étiquettes, tu vois. Il y a une des plus grosses encyclopédies du métal en ligne qui s'appelle Encyclopedia Metalleum, Metal Archives, voilà. Et à chaque fois, c'est vrai que les étiquettes, des fois, elles sont un peu à rallonge. Et en même temps, je pense que c'est important de, tu vois, pour se retrouver dans la musique, quoi. Je veux dire, peut-être qu'on les a pas autant dans le rap ou dans d'autres sous-genres. Quoique dans l'électro, j'ai l'impression qu'on a aussi pas mal d'étiquettes.
Ouais, c'est vrai.
Et j'ai l'impression que dans l'électro, c'est pas mal aussi ce truc de...
On avait reçu, il y a quelques épisodes, donc les gens de Technopole, qui, c'est une association qui milite vraiment pour la reconnaissance de la musique électronique, etc. Ouais. Et bref, c'est des grands passionnés. Et ils nous disaient qu'à leur connaissance, s'il y a un style effectivement qui est extrêmement divers, varié, avec des embranchements multiples, etc., c'est bien la musique électronique qui a plein de façons, plein d'expressions électroniques différentes. C'est tellement vaste, même le qualificatif électronique d'ailleurs en tant que tel, déjà il est extrêmement...
Tu peux mettre tellement de choses dedans.
Et c'est vrai que c'est un truc qu'on attribue souvent au métal, mais on le retrouve dans d'autres genres, en particulier dans la musique électronique. La question après, c'est effectivement, est-ce que dans l'approche subjectif, presque personnel, que chacun a de la musique, est-ce qu'il y a une forme de légitimité? Pour toi, c'est clairement le cas. Ça a du sens de mettre des étiquettes aussi. Mais tu vois, ça m'amène à un truc de l'extérieur. J'aime cette musique, mais je suis pas un fanatique. Je suis pas investi plus que ça vraiment dans la culture métal. mais que c'est un genre qui est quand même très attaché à son histoire, aux références, aux fondateurs, aux racines et aux embranchements, justement. T'avais parlé à un moment de comme un arbre un peu généalogique et des différents styles, comment ils découlent les uns des autres et comment les étiquettes naissent aussi de ça, en fait, d'une forme de filiation, d'une certaine manière. Est-ce que on peut mettre en parallèle justement ce phénomène et la diversité du genre? Est-ce que c'est aussi une façon, parce qu'on disait que c'est très divers le métal, de recréer du commun presque, tu sais, de dire en fait il y a tellement de trucs variés dans le métal, mais attends, cet embranchement il vient de ça et puis de ça et puis en fait on revient un peu au fondateur. Est-ce qu'il y a un peu cette logique derrière tout ça?
Mais en fait, d'autant plus par rapport à ce que tu dis, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les étiquettes s'effacent de plus en plus parce que justement les groupes qui arrivent actuellement ont tellement d'influence qui vont aller de Black Sabbath au Gents par exemple, tu vois, pour prendre le plus ancien et le plus récent en termes d'étiquettes. Que ils ont digéré toutes ces influences parce que maintenant le métal ça a 50 piges quoi, donc forcément t'as plein de trucs à écouter, ce qui fait que ça devient de plus en plus difficile de donner une étiquette précise. C'est-à-dire que tu vas dire voilà, alors c'est du black death avec plein de slash derrière et plein d'autres étiquettes parce que ils ont réussi à tout digérer, ce qui fait que le métal pur, le métal de base, il n'existe plus, tu vois, en tout cas pour les nouveaux groupes qui arrivent avec des nouveaux sons. Par contre, il y a aussi un truc dans le métal qui est qui a été assez flagrant ces 10 dernières années, c'est le côté revival, donc justement hommage aux anciens, où t'as eu une grosse ces 10 dernières années, ce qui a hyper bien marché dans le métal, c'était le heavy metal revival, c'est-à-dire le pur heavy metal années 80, pure souche, tu vois, sans trop d'artifice en plus, sans tous ces slash là dont on parlait, tu vois. Il y a eu un gros revival de ça, quoi. Donc des trucs qui sonnaient Maiden, qui sonnaient Black Sabbath, qui sonnaient métal de base, en fait, quoi. Et le métal, un peu comme la musique de manière générale, de toute façon, ou même l'art, hein, de manière générale, fonctionne par cycle. C'est-à-dire que il y a des phases, on va dire, qui sont revival, c'est-à-dire des moments où tu vas avoir, on va pas mal recycler les anciens genres musicaux. Et puis des phases, on va essayer d'apporter un petit peu de nouveauté. Alors là, j'ai l'impression que la nouveauté, elle est pas forcément au rendez-vous ces dernières années.
Parce que ça, c'est un truc très intéressant, mais justement, j'aimerais qu'on consacre carrément une deuxième partie où on parlera un peu plus du métal d'aujourd'hui. Et on reviendra en détail un peu sur ce que tu dis.
Ouais.
Mais peut-être là, juste pour terminer sur ces histoires tu disais que le métalleux est attaché quand même souvent aux étiquettes, au fait qu'il y a quand même des genres précis avec des caractéristiques précises, etc.
Ouais.
Moi, ça m'évoque un truc, c'est que quand t'as un genre très fort comme ça, parce que c'est un phénomène culturel important, le métal, tout comme le rap l'est aussi, la musique électronique, etc. C'est des phénomènes culturels importants avec qui dégagent une identité importante. Et tu te demandes si parfois ça prend pas le dessus. Alors ça, c'est un truc très subjectif. Et Michel, j'aimerais bien avoir ton avis aussi. Si ça prend pas le dessus sur la musique presque, dans le sens où tu vas avoir des gens qui vont te dire moi j'aime la musique et en particulier j'aime ce genre, et j'ai l'impression qu'il y a d'autres approches, et j'aime ce genre, ça peut être valable avec le rap d'ailleurs, j'aime le rap et la musique c'est presque, tous les autres pans de la musique c'est presque secondaire. On est, tu sais, alors que moi par exemple je dis moi c'est la musique que j'aime avant tout, et après il y a des trucs que j'aime en particulier. Est-ce que on retrouve un peu ce phénomène dans le métal? Est-ce qu'il y a des gens qui, plus que d'aimer la musique, aiment avant tout une niche spécifique?
Complètement. Ce qui est un peu énervant aussi, moi, c'est des comportements qui me plaisent pas trop, et justement j'ai essayé de casser ce truc là avec ma chaîne, et je suis content parce que je pense à un petit peu avoir une petite influence, tu vois, sur ce truc là justement, où en fait t'as des gens, et ça tu vas le retrouver surtout dans les styles extrêmes, notamment le black metal, hein, pour en reparler, où en fait t'as des mecs qui recherchent avant tout une famille musicale, tu vois, ils cherchent une identité, en fait. T'as ce truc qui est vachement identitaire dans le métal, qui est de dire bah voilà, là j'ai trouvé le black metal, ça y est, je l'ai compris, j'ai réussi à décoder cette musique, je m'habille comme ça, je pense comme ça, je me tiens comme ça à un concert, j'ai ce comportement sur les réseaux, j'ai ce comportement avec les autres.
Ce qui est une richesse aussi d'ailleurs, parce que là on est un peu critique, mais c'est aussi, ça veut dire qu'il y a de la matière.
C'est ce qui crée presque, tu vois, c'est comme ça qu'est arrivé le black metal. Le black metal, en fait, c'était une réponse à l'époque au death metal, justement. Alors là, je parle du black metal deuxième vague norvégien, tu vois, je commence déjà à être relou, qui était en fait un peu une réponse au death metal suédois et américain, qui était un peu trop cool, tu vois. On mettait des jogos, on était peut-être plutôt à gauche, alors que le black metal a vite dérivé à droite, tu vois.
Et tiens.
Et ils sont arrivés, tu vois, avec ce truc. Nous, en fait, on va casser ces codes du death metal. Puis le death metal aussi commençait à être produit, c'est-à-dire qu'on commençait à aller voir distribué partout sur des gros labels. Et le black metal, lui, est arrivé avec des nouveaux codes. une attitude beaucoup plus punk et donc ils ont repoussé encore les limites du métal, tu vois, en jouant de manière plus violente. Bon bref, ils ont repoussé tous les codes du métal pour créer le black metal. Alors certes, ils étaient assez intransigeants, ils étaient très puristes et pour la plupart c'était des sales cons, mais c'est ce qu'a créé le black metal aujourd'hui, qui est peut-être la branche du métal la plus riche, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui black metal, alors c'est marrant parce qu'au début c'était très punk, très, on arrive pour, on va dire, mettre un coup de pied dans la fourmilière, et aujourd'hui t'as le post black metal, le black symphonique, le black prog, t'as même des sous-branches comme la dungeon synth, où t'as même plus de guitare, en fait c'est juste de la musique jouée au synthé, tu vois, avec des VST de cornemuse, tu vois. Mais
métal, justement, j'avoue que si, alors on l'a dit, hein, c'est divers, etc., mais il y a quand même une esthétique sonore qui se dégage, qui peut être commune parfois, ou en tout cas des éléments. Et j'avoue que la guitare saturée, tu l'avais évoqué tout à l'heure, c'est quand même un des éléments essentiels. Et là, tu me dis non, il y a un truc, c'est du métal, mais il n'y a pas une seule guitare saturée.
C'est très compliqué. Alors, on l'a filé au métal parce que c'est le métal qui a donné naissance à ça. Mais par exemple, le Dungeon Synth, effectivement, qui est une musique un peu qu'on pourrait, musicalement, on va dire que ça ressemble à la musique des jeux vidéo d'aventure des années 80-90. Ouais. C'est vraiment, parce que pareil, dans la Dungeon Synth, après, t'as plein de sous-branches. Mais c'est vraiment pour donner une définition assez large. Et en fait, à la base, les mecs qui ont plus ou moins créé cette musique, c'était des black métalleux dans les années 90 qui voulaient juste extraire le côté nerd et synthétique du black metal, parce que t'avais par exemple certains groupes de black metal qui ajoutaient des fois des petites notes de synthé ou des petites notes de synthé pour ajouter une nouvelle couleur à la musique. Et bien, ils ont pris juste cette partie-là du black metal pour en faire des projets à part entière. Ça a créé la Dungeon Synth. Voilà. Donc à l'époque, on n'appelait pas ça la Dungeon Synth, on appelait ça de la Dark Wave. On collait des petites étiquettes qui existaient déjà. Et là, ces dernières années, on a accolé l'étiquette Dungeon Synth, qui est devenu un vrai style à part entière, avec des labels, des chaînes YouTube qu'on diffuse, ouais, tout ça, qui est devenu une vraie niche assez foisonnante, mine de rien. Et tu vois, ça, c'est un truc qui vient du black metal, qui était une réponse au death metal, qui lui-même vient du... C'est là où les étiquettes sont importantes, parce que comment tu fais pour te repérer si t'as pas tous ces codes-là, tu vois.
C'est marrant parce que là, tout ce dont tu parles, c'est passionnant d'un point de vue historique de l'histoire d'un mouvement comme ça.
Et puis plus le temps avance, plus t'as des nouvelles petites niches qui se créent.
Bien sûr.
Donc si t'as pas les points de repère précis, si tu jalonnes pas ça avec
j'ai envie de dire, en tant qu'historien de la musique, en tant que musicologue, en tant que vraiment passionné à fond, qui essaye de comprendre l'histoire, là, effectivement, ces questions d'étiquette, d'embranchement, elle est importante parce que tu remontes aux sources, rien ne sort de nulle part, donc et c'est passionnant ça. Mais lorsque t'es auditeur, et tous les auditeurs de musique ont pas forcément ce lien quoi aux étiquettes si important, et j'ai l'impression que dans le métal, c'est quasi un passage obligé.
Non, bah c'est vrai. Après le métal, le truc c'est que tu vois, moi quand j'étais petit, j'avais pas Internet, et j'ai eu Internet vers mes 15-16 ans. Et le premier truc où je suis allé, c'était les forums et les webzines métal, tu vois. Comme tout le monde, je suis arrivé un petit peu, tu sais, le rookie, quoi. Genre, salut, moi j'écoute Slipknot, Marilyn Manson, In Flames, tu vois. Et puis j'avais du mal, pareil, moi, à classifier la musique que j'écoutais. Et c'est vrai que rapidement, tu te prends une tarte derrière l'oreille, tu vois. Genre, non, mais déjà, ce que t'écoutes, c'est de la merde. Et en plus, ça, c'est pas du black metal, c'est du machin bidule chouette, tu vois. Alors, c'est vrai qu'il y a cette attitude un peu élitiste, un peu toxique parfois. Et mine de rien, ça m'a un peu fait rentrer dans les rangs. Et j'ai compris en quoi c'était important de préciser ce que t'écoutes. Alors, après, il y a des façons de faire. Moi, c'est sûr que si j'ai quelqu'un qui vient vers moi et qui me dit « Ouais, j'écoute du death metal alors que c'est du death mélodique, tu vois », bah je vais pas l'engueuler, je vais juste lui expliquer. Je vais faire « Ah ouais, bah effectivement, ça rentre dans la grande étiquette du death metal. » Mais tu vois, là, il y a des riffs qui ressemblent un peu à Maiden. Et là, il y a un pont, en fait, qui est super mélodique avec des synthés. Bah en fait, c'est du death mélodique. On appelle ça du death mélodique. Après, si je vois que le mec, il percute pas, je vais pas le faire chier avec ça, tu vois. Mais... effectivement, quand tu rentres dans la... C'est un truc de geek, tu vois, c'est un truc vachement nerd, en fait, le métal, tu vois. Ça a toujours été un truc qui s'est diffusé via les fanzines sous le manteau, ensuite via les forums un peu obscurs sur Internet, tout ça. Ouais. Et donc, il y a une généalogie qui est hyper pointue, quoi. Et moi, effectivement, quand j'ai découvert ces forums à l'époque, très rapidement, j'ai vu le truc se dessiner devant mes yeux, quoi.
Mais est-ce qu'il y a quand même une forme de grand public du métal? Alors, tu dis c'est un truc très nerd, etc.
Ouais.
Parce que ça, il y a plein de styles musicaux où tu auras vraiment les fous du truc, mais tu as en général aussi limite la majorité, ou en tout cas une partie de la population qui est des auditeurs, qui vont rester vraiment en surface.
Surface, bien sûr, ouais.
Et c'est le cas aussi dans le métal ou bah, pour toi il y a quand même
Oui oui, t'as les groupes mainstream, on va dire, qui vont réunir beaucoup de gens et des gens qui forcément vont pas aller diguer par la suite des choses plus pointues. Bien sûr que t'en as. Alors on peut citer Metallica, on peut citer dans les groupes actuels Five Finger Death Punch par exemple, tu vois, qui font partie vraiment des gros groupes, des grosses têtes d'affiche actuelles que moi j'écoute pas forcément, que ce soit Metallica ou ce groupe-là. Mais oui, qui vont faire du, ce qu'on va dire, du métal Ouais, encore Metallica, tu le mets dans le thrash metal en vrai, tu vois. Même si avec les années, ils ont fait effectivement du métal plus généraliste, on va dire. Mais t'as un peu cette vague de métal généraliste qui existe. Mais en vrai de vrai, si tu veux être chiant et creuser un peu, tu peux réussir à mettre des étiquettes dessus. Tu vois. et après, c'est pas grave si les gens. Moi, je pars du principe que tu t'arrêtes où tu veux avec ce que t'as envie de découvrir dans l'art et dans la musique, quoi. Moi, par exemple, j'aime bien le cinéma. Je m'y intéresse pas forcément de près. Voilà, je regarde des films de temps en temps comme tout le monde. J'aurais peut-être parfois du mal à classer précisément. Alors, je vais savoir, est-ce que c'est un drame, une comédie, un film d'animation. Évidemment, je vais quand même réussir à avoir différentes strates, mais je vais pas aller dans la niche, tu vois. Donc, mais c'est pas grave. Et si un jour quelqu'un me parle d'un film et qui me dit alors ça, tu vois, c'est un drame coréen sorti en telle année, donc ça s'affilie à telle scène de réalisateur, machin, bah je vais l'écouter. Je vais peut-être rien retenir, tu vois, mais je vais comprendre qu'il y a une culture historique derrière qui s'affilie à tel genre ou à tel film, et je vais dire ok. Et pour moi, c'est important, il faut pas dénigrer ce truc-là, parce que finalement, l'art, c'est de l'histoire. Et tu vois, si on commence à dire, ouais, mais c'est pas important, parce que finalement, bon, c'est que de la musique. Donc on pourrait donner des termes imprécis et rester vague. Finalement, on s'en fout un peu. Le problème, c'est que si on commence à réfléchir comme ça, et qu'on fait ça pour tout, bah c'est difficile de retracer ce qu'est l'histoire, tu vois. Pour moi, il faut des jalons, et il faut mettre des mots derrière ces jalons, quoi. Sinon, bah tu te perds, quoi. Et... Parce que tout à l'heure, en fait, tu as employé le terme si tu es un historien de la musique, bah il en faut des historiens de la musique, tu vois. Donc ces termes-là existent. Mais après, ça va être comment tu abordes la musique avec les gens. Moi, j'essaie de le faire de manière assez didactique sur ma chaîne, tout en restant un petit peu. Moi, je suis un digger. Je me considère comme un digger de la musique, tu vois. Et j'essaye de montrer ce côté-là, ce côté passionné, ce côté digger. Donc j'emploie des termes qui sont très précis. Parfois, je vais mentionner des groupes, voilà, qui font partie d'une niche très particulière où les gens vont pas forcément accrocher, mais je le fais quand même. Mais j'essaye en même temps d'apporter ce côté didactique sans faire de la vulgarisation, tu vois, un peu bête et méchante. Je dis voilà, bah là, effectivement, on va parler pour prendre la Dungeon Scene. Par exemple, bah, la Dungeon Scene, c'est ça. J'essaie de mettre des mots très précis, des images très précises, sans faire le puriste relou, tu vois. Donc je pense qu'il y a un juste milieu, tu vois. On peut être précis et puriste. Bah, pas puriste, mais on peut être on peut être précis sans être chiant et sans être relou, tu vois, avec les gens avec qui tu vas interagir, quoi. Mais ça, c'est un équilibre à trouver. Et c'est vrai que dans le métal, d'ailleurs, on a abordé ce sujet-là par ça, vous avez raison, c'est fait d'une manière que je trouve assez sale, généralement. Après, c'est les gardiens du temple, tu vois. Ils aiment bien garder le truc pour eux.
Ça se fait dans c'est ce que Salman disait un petit peu, tu vois, ça se fait dans tous les genres musicaux qui ont une identité assez forte. Et j'ai l'impression que, en gros, souvent, c'est des mouvements qui ont été vraiment lancés par une génération, tu vois, genre vraiment ce côté, c'est un mouvement en réaction à quelque chose.
Voilà. Ce truc-là, c'est à nous, ça nous appartient, et on veut pas que vous y touchiez. Donc on rend le truc assez hermétique.
Ouais, il y a une notion d'identité qui se met dedans.
C'est ça, genre, quoi.
Ça participe vraiment tellement à te créer une identité que c'est très important pour toi de le préserver en l'état, etc. Il y a ça dans le rap aussi. Juste pour moi, ça atteint ses limites à partir du moment où c'est mélangé à une forme de frustration, tu vois.
C'est beaucoup le cas dans le métal, et ça, je suis totalement d'accord. C'est un souci qu'il y a dans cette zik. Je le vois au quotidien, tu vois, que ce soit plus maintenant, mais en concert, en festival, ou dans les commentaires, ou sur les réseaux sociaux. Il y a un gros souci, il y a un putain de souci avec la communauté métal. Ça, c'est clair et net. Tout le monde le sait, tu vois. Bon, voilà.
Oui, non, mais moi, je disais pas ça pour cracher dessus, tu vois. C'est vraiment, je trouve que dans le rap, ça se fait aussi pas mal, hein. Mais c'est vraiment, moi, je parle vraiment à l'échelle individuelle, tu vois, quand vraiment, je trouve quand t'as, c'est une passion vraiment pour quelque chose et que tu conçois un style musical comme quelque chose qui fait partie intégrante de ton identité. Évidemment que t'as pas envie forcément
qu'on y touche
ou que, enfin, tu vois, d'avoir l'impression que ça change, etc. Parce que si ça change, ça te change toi, tu vois. Donc, enfin, c'est peut-être un peu de la branlette intellectuelle, mais c'est un peu ce que je me dis. Et du coup, j'ai l'impression que tant que la personne est à l'aise, tu vois, ça va, c'est cool. Mais dès que ça commence à être mélangé à un petit peu de frustration personnelle, ça commence vite à partir en couille et à devenir potentiellement violent. Et l'élitisme en soi me pose pas tellement de problèmes tant que c'est assumé comme tel, tu vois, et que tu dis moi je suis élitiste, j'aimerais bien que tout le monde sache si ou ça machin, mais que c'est une position qui n'engage que toi. Mais à partir du moment où tu commences à dire oui, mais ce style musical en fait c'est ça aussi, c'est de savoir tel truc, ben là tu commences à devenir un peu hermétique et potentiellement un peu casse-couille à mes yeux.
Mais tu vois, en plus c'est marrant parce que les mecs que tu décris là qui existent, hein, ils sont nombreux, qui se prennent justement pour les gardiens du temple et qui veulent faire les mecs, quoi, les mecs qui font les mannes, tu vois. Et ben en vrai c'est pas, généralement tu discutes un peu avec eux, tu t'aperçois que c'est pas forcément ceux qui ont le plus de connaissances dans le domaine, tu vois.
Ça qui est marrant.
Et effectivement quand tu parles de frustration, c'est ça, c'est à dire que les mecs ils ont trouvé leur petite famille dans laquelle ils pouvaient s'autosucer les uns les autres, tu vois, leur petite identité, donc finalement ils ont creusé juste un tout petit peu plus que les autres, que le métalleux moyen qui écoute tu vois Metallica et Bullet for My Valentine, tu vois. Oui. Et ils sont contents d'avoir creusé un tout petit peu plus que les autres, donc ils vont être assez fiers d'eux, et finalement ils vont se faire passer pour l'élite, alors que bah tu vois, tu discutes 5 minutes avec eux puis tu dis ah non mais en fait c'est juste que t'as découvert 3 groupes de plus que les autres. Mais en vrai, pourquoi t'as choisi de prendre ce rôle-là? C'est parce que ça te donne une façon d'exister aussi sur Internet et dans une communauté, quoi.
Ouais, voilà, c'est
ça. Et souvent, ouais, mais ça, ça fait partie des cancers du métal. Et je pense qu'on s'en dépatouillera pas. Hein.
Qu'est-ce que tu penses, Michel, de... Pardon, tu voulais terminer peut-être?
Non, j'avais rien à ajouter, mais enfin, c'est marrant que vous ayez fait ce constat, et beaucoup de gens le font. Après, bon, vous êtes quand même dans la musique, mais ce constat-là, avec des potes... même des gens de ma communauté, on l'a fait, quoi. Et ce qui est marrant, c'est de voir que plein de gens, en fait, fans de Zik, arrivent à faire ce constat-là, alors qu'ils sont pas forcément le nez dans le métal. Ce qui fait qu'encore une fois, on passe encore plus pour des bolos, c'est tant pis pour nous, tu vois. Mais,
en même temps,
tant mieux, tu vois, parce que moi, justement, j'essaie de casser ce truc-là, j'essaie de casser ce truc un peu trop identitaire, en mettant de l'éclectisme dans ce que je fais, en essayant d'aller m'intéresser à d'autres choses. Je le monte sur la chaîne, je le monte dans mes streams aussi de plus en plus. Je m'ouvre à plein de choses et je trouve ça important de le faire, tu vois. S'il y en a qui veulent jouer au gardien du temple et se la raconter, bah qu'ils le fassent, tu vois, tant mieux pour eux, et peut-être que justement ça créera peut-être d'autres choses par la suite, mais moi je me retrouve pas là-dedans, quoi.
Mais ce que j'apprécie, c'est que ça peut très vite devenir une dérive, mais fondamentalement on parle quand même aussi d'une forme d'exigence des amateurs vis-à-vis de leur genre, de la façon dont on doit le décrire, de ses codes, etc.
Ouais.
Et cette exigence, elle est quand même elle peut être remarquable aussi, d'être quand même un peu exigeant vis-à-vis de la musique qu'on aime, etc. Ça veut dire qu'on est investi et qu'il y a un rapport affectif, encore une fois, que c'est riche, puissant, etc. Et donc, il y a aussi, pourquoi pas, un aspect positif. Quand ça devient sectaire, c'est ridicule. Mais
je suis totalement d'accord avec toi, mais tu sais, la plupart du temps, en vrai, les icos qui bossent leur projet artistique, enfin leur concept artistique, qui essaient de repousser les limites, tout ça, la plupart du temps, c'est pas eux, hein, que tu vas voir sur les forums ou les réseaux sociaux à faire des combats de tub. Hein. En vrai, la plupart du temps, pour traîner dans le milieu depuis suffisamment longtemps et observer un peu ce qui se passe. Alors oui, des fois, ça va être les mêmes personnes. Parfois, c'est les mêmes personnes. Mais en vrai de vrai, les mecs qui font le taf, c'est pas ceux qui ont le temps, tu vois, de venir se la raconter. Comme je disais, hein, souvent, en fait, les gardiens du temple, en fait, ils sont octroyés ce rôle. Mais la plupart du temps, c'est pas des mecs sérieux, en vrai.
Et ben, on en revient un peu. Et Michel, j'aimerais bien que tu me dises si t'es d'accord avec ça. Où je disais que moi, j'ai l'impression parfois que je le vois dans le rap, je le vois dans le métal, qu'il y a des gens, c'est plus parler de musique, c'est avant tout parler de ce genre, et la musique passe au second plan. Or, tous les genres musicaux sont liés aux autres genres musicaux aussi. Il y a toujours évidemment des passerelles, etc. Et moi, il me paraît, après c'est ma vision, quand on aime un genre musical, on doit s'intéresser aux autres musiques, ou au moins avoir une certaine curiosité vis-à-vis des autres musiques, de la musique en général en fait, parce qu'il sort pas de nulle part ton genre tant aimé. Est-ce que vous êtes d'accord, ou est-ce que j'exagère? C'est pas, et notamment Michel, est-ce que c'est pas si, tu vois,
moi je peux pas te laisser dire ça, Salman. Je refuse de te laisser dire ça. Non, moi, enfin, déjà la notion de devoir, t'as dit, pour moi quand t'aimes un style tu dois machin et tout, pour moi tu
dois
rien du tout.
Non mais j'exagère, bien sûr.
Oui, mais du coup pour moi, genre, déjà de base, c'est genre, non, tu kiffes quoi balader, tu vas pas te demander d'où vient le blues, et tu vois, genre, c'est bon, tu vois. Genre,
Et je trouve pas dommage que quand on se, par exemple, avec l'exemple du rap, quand on se bute au rap, le rap en plus, qui est une musique qui a tellement exploité le sample, etc., de rester un peu avec, tu vois, des œillères comme ça, c'est pas un peu se priver de la compréhension même de ce mouvement, tu vois.
Oui, mais tu parles en tant que passionné, là aussi. Ouais.
Bah, déjà, puis je pense que tu peux être passionné de plein de manières différentes. Moi, par exemple, genre, l'histoire de la musique, ça m'a jamais vraiment fasciné. Par contre, la fabrication de la musique, c'est un truc qui me passionne. Donc, je suis passionné par la musique, mais pas forcément par le même plan, quoi, tu vois. Et puis, je sais pas, je trouve qu'il y a c'est un truc qui est un peu global, tu vois, ce truc de ne pas apprendre du passé, tu vois. Genre, c'est vraiment un truc qu'on retrouve dans toutes les sphères de la sociétaire de consommation dans laquelle nous vivons. Je sais pas trop où je vais avec ça, mais tu vois ce que je veux dire, c'est genre...
On vit dans une sauce.
Mais enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que genre, c'est pas propre à la musique, et en vrai, est-ce que déjà on peut lutter contre ça? Est-ce que c'est super intéressant? Parce que en vrai, tu vois, t'as cette expression qui dit réinventer la roue, mais en vrai, je trouve, par exemple, c'est un exemple qui a fait pas mal de bruit dans la communauté rap, c'est Kobalade qui savait pas qui était IAM. Ouais. Tu vois.
Et c'est qui IAM?
Ouais, c'est ça. Mais genre,
c'est pas grave en plus.
C'est pas grave. Est-ce que vraiment il refait du IAM? Non, il y a un Benjamin Epps qui est en train de péter, qui fait du boom bap un peu à l'ancienne, etc. Lui, Nicolas, clairement, c'est très, ouais, de ouf, c'est très référencé, machin, etc., tu vois. Mais même il ferait ce genre de vibe, parce que là, évidemment, il y a des gamins de 15 ans qui découvrent ça et qui se disent, oh putain, la dinguerie, tu vois. Alors que tu vois, genre, c'est une esthétique qui a 25 ans, mais est-ce que c'est grave, tu vois, que les gamins qui kiffent ça là maintenant se rendent pas compte d'où ça vient?
Je comprends ce que tu dis. En fait, c'est pas tant moi, c'est-à-dire que moi, j'ai pas envie que tout le monde soit des experts d'un genre, de machin, ou même de la musique de manière générale. Moi, c'est vrai que globalement, je valorise la curiosité, par contre. Ouais. Ça veut pas dire demander à ce que les gens diguent absolument tout, etc. Juste, la curiosité, c'est une valeur positive, je pense, et que quand on s'intéresse à un style musical, c'est toujours bien d'être un peu curieux quand même sur ce qui s'est passé un peu avant. Pas tout maîtriser sur le bout des doigts, mais je pense que le monde devrait fonctionner comme ça, où tous on s'intéresse un peu aux choses, tout simplement, notamment quand elles lui plaisent, en fait.
Oui, non, mais ça, c'est un truc que je valorise aussi, tu vois. C'est juste, après, tu peux être curieux sur différents trucs.
Mais là, t'as raison. C'est vrai que ça peut prendre plusieurs formes et on peut mettre le curseur sur des trucs différents. Ça peut être autre chose que l'histoire de la musique. T'as raison, comment on l'a fait, par exemple, etc. Mais,
C'est bien aussi parfois que t'aies des mecs qui débarquent dans un game, que ce soit le métal ou le rap, et en fait qu'ils aient aucune connaissance de ce qu'est la base, parce que du coup ça les émancipe totalement, tu vois, d'une certaine influence, et c'est peut-être aussi comme ça que tu peux créer des nouvelles choses.
Ouais, voilà, c'est ça. Faut un équilibre entre les deux, quoi. Si tout le monde est historien de la musique, c'est pas ouf.
Et puis en plus, c'est quand même un privilège aussi, tu vois, de pouvoir diguer la musique et de pouvoir l'étudier en soi, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut avoir le temps, faut avoir le cerveau quand même suffisamment fait pour. C'est-à-dire qu'il faut avoir déjà vécu dans un milieu peut-être pas trop galérien, pas trop, tu vois. C'est tout un, derrière il y a tout un cheminement qui est lié à un contexte social, culturel. Tu sais,
c'est pour ça que moi
attention, tu fais affaire à un sociologue.
Non, mais un truc que j'aimerais faire un jour dans ma vie, c'est de l'action sociale, culturelle, autour justement de l'éducation musicale, et aussi autour de l'histoire de la musique, etc. Parce que je suis sûr que ça participe aussi à modeler la vision du monde que l'on a, le rapport qu'on a aux arts, etc. Et si rien que dans les trucs qui nous passionnent, musicaux, on ferme des portes, etc., je suis sûr que ça dénote d'une réflexion de manière générale que l'on peut appliquer à d'autres éléments, et que c'est une des petites portes humble, qui va pas révolutionner les choses, mais qui peut permettre petit à petit de travailler d'autres éléments. Et juste pour terminer sur mon histoire, en fait, c'est pas tant demander à chacun d'être expert, s'intéresser à tout, etc., mais remettre juste parfois la musique au centre des choses, rappeler que c'est de la musique, et que dans la musique, il y a d'autres éléments aussi quand même. Et, par exemple, j'aime bien le fait qu'en anglais, quand on parle d'un genre, on rajoute musique, on parle de rap music, folk music, etc., et juste rappeler que c'est de la musique. Et parfois, j'ai l'impression que quand on parle métal, rap, on oublie presque que c'est de la musique et que, c'est, que les gens qui adorent ça, c'est avant tout des passionnés de musique. Et que en bougeant un poil le curseur comme ça sur la musique, ça peut ouvrir vers d'autres choses intéressantes.
Justement, moi, je suis pas sûr d'être d'accord avec ça.
C'est vrai.
Je suis pas sûr d'être d'accord qu'un passionné de rap, il soit passionné de musique, tu vois. Pour moi, genre, tu peux apprécier.
Ah, ça, enfin, je
dis le rap parce que. Mais parce que pour moi, c'est genre, t'as une culture, t'as. Ouais, je sais pas.
Mais ça fait partie de la musique.
Oui, ça fait partie de la musique, mais je sais pas comment dire. Genre, tu peux, je sais pas, genre, il y a un mec qui peut être passionné de pâtes. Il peut aimer les pâtes. Mm-hmm. Et genre, toutes les formes de pâtes et toutes les sauces de pâtes et tout, quoi, tu vois. Genre, il peut kiffer juste les pâtes il est pas obligé de s'intéresser au saumon, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais c'est un
genre,
passionné de cuisine. Le mec, s'il passe tant de temps autour de la pâte, c'est que l'art culinaire le passionne. Alors, spécifiquement, la pâte, je suis d'accord. Mais tu vois, il y a un truc quand
non,
même.
Non, mais de manière naturelle, à terme, de toute façon, quand t'es passionné de quelque chose, en fait, effectivement, tu peux pas être passionné que d'un truc. Si tu te prends de passion pour les choses qui t'entourent, évidemment que si t'es passionné de musique, tu vas tirer la ficelle et au bout d'un moment, tu vas tomber sur un autre truc qui va te plaire. Hop, tiens, une autre ficelle, vas-y, je vais la tirer. Mm-hmm. Mais comme je disais, ça, en fait, être passionné de quelque chose, avoir le temps de se passionner pour les choses, en vrai, c'est un privilège, tu vois. Il y a plein de gens qui n'ont pas le privilège de passer mm-hmm. du temps sur quelque chose, tu vois, ou même peut-être qu'on pas eu l'éducation pour, tu vois, il y a des gens, ils rentrent chez eux, ils allument la télé, ils ouvrent une bière, ils font rien d'autre et puis ils gueulent sur leur gosse et sur, tu vois, enfin, il y a tout un truc aussi. Moi je pense que cette notion de
passion. Ils votent quoi, tu crois?
Quoi?
Ils votent quoi, tu crois?
Ah, ton avis.
Je sais pas.
Ah, tu as des préjugés.
La question.
Où tu veux aller là?
Je te demande, je sais pas, t'avais l'air d'avoir une image bien spécifique, donc.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le train-train du quotidien, tu vois, et qu'on pas justement peut-être cette éducation culturelle, tu vois, quand ils étaient petits ou jeunes, et que malheureusement, bah, ils ont pas eu ce privilège de s'intéresser en profondeur aux choses.
Ouais.
Et comme tu dis, tu parles de faire des projets sociaux, machin, pour que les gens s'intéressent. À la musique et puis bah en découle derrière de s'intéresser aux choses de la vie mais ça ouais encore une fois c'est un privilège tu vois il y a des gens à aucun moment ils disent tu vois ils écoutent de la musique pour eux ils vont consommer la musique comme n'importe quel produit c'est ouais je prends plus ou moins du plaisir à écouter ça je vais l'écouter en boucle ah tiens la proposition demain c'est ça bah vas-y ouais. Je vais écouter ça et je pense que la plupart des gens ce soit et même dans le métal parce que le métalleux tu vois il aime bien se la raconter mais en vrai c'est exactement ce qu'il fait à une échelle peut-être un peu plus précise, mais le mec qui va dire ouais moi j'aime bien le métal, j'écoute Metallica et place autre groupe mainstream que tu veux, bah en fait il a la même façon de fonctionner qu'un mec qui écoute du rap mainstream, qu'un mec qui écoute qui va écouter de la chanson française, tu vois qui passe quand t'achètes tes tomates à Carrefour, tu vois, et réussir à débloquer ce truc de la passion, c'est pas évident, je pense, tu vois. Évident. Ça, tu le découvres un peu quand t'es jeune, quand t'es gamin, à l'adolescence, machin, tu sens qu'il y a un truc. Mais derrière, si t'as des parents qui t'ont éveillé à rien, par exemple.
Mais ça, je suis complètement d'accord.
Comment tu fais, tu vois?
Je m'exprimais notamment sur les gens qui sont déjà, en fait, des passionnés d'un style, etc.
Ouais.
Par contre, évidemment, dans plein de domaines, moi, par exemple, je connais pas grand chose en peinture ou en art pictural de manière générale. J'aimerais mieux connaître. Je peux avoir une sensibilité, mais c'est pas un truc que j'ai travaillé. Et je pourrais comprendre que quelqu'un qui est passionné, il est presque cette exigence vis-à-vis de moi. Ah, il faut que tu connaisses. Mais en fait, évidemment, que c'est pas comme ça que ça marche. Chacun on a nos cinq d'intérêt. On a du temps limité, etc. Et puis tu as raison. Il y a tout un aspect socio-économique, plein d'éléments qui rentrent en compte. Donc c'est pas tant l'exigence. Tout le monde devrait s'intéresser à la musique. C'est juste quand tu es vraiment dans un style à fond, c'est bien de se rappeler que c'est de la musique. Et que donc, ça peut un peu ouvrir les perspectives. C'est juste mon truc, voilà. Après,
t'as raison. Après, du coup, pour revenir au métal, ça reste quand même un truc de nerd un peu perché, le métal, tu vois. Genre, dans quelle autre musique tu verras des mecs, tu vois, faire une veste avec. Alors, moi, j'écoute ce groupe, les vestes Apache, quoi, tu vois. Genre, moi, j'écoute ce groupe, il y a le logo de tel groupe, la pochette de tel album. Tu vois, ça reste un truc de gros geekos, quand même, quoi. Et nulle part ailleurs, tu verras ça. Et un peu comme dans le jeu vidéo et les cultures nerds de manière générale. Oui, t'as ce truc un petit peu où faut être pointu, faut être précis, et en plus de ça, c'est une musique qui est tellement, tu vois, qui a jamais été acceptée par les grands médias, tant mieux ou pas. Hein, d'ailleurs, ça, j'en sais rien. Moi, je m'en fous un peu, tu vois, qu'on passe pas sur M6 ou rien à cirer de ça, tu vois. Mais du coup, ce qui fait que c'est vrai que les fans de métal, de manière générale, se sont reclus. Voilà, dans leur petit concert, dans leur petite salle de concert, dans leur petit forum, dans leur petite page Facebook, dans leur petit... Ce qui fait qu'effectivement, t'as cette petite carapace aussi qui s'est créée de manière naturelle, qui fait que, encore une fois, oui, ça, ça s'exprime par un côté élitiste un peu
ouais,
con.
Ouais, c'est marrant, parce que genre, il y a vraiment ce truc de, tu sais, quand on était gamin, je pense on est un peu de la même génération, t'avais toujours ce truc-là, la bagarre entre le rap et le métal, tu vois.
Le métal domine, le rap s'incline.
Ok, exact. On a bien vu ce que ça a donné. Genre, c'est marrant justement, parce que c'est vraiment deux écoles très différentes sur des bases assez similaires, qui est genre, moi comme je le conçois, tu vois, un mouvement un peu extrême en réaction à quelque chose, et t'as genre le métal d'un côté qui a tenu à préserver ce truc-là, quitte à avoir une image un peu bizarre. Ouais. et à côté, t'as le rap qui a complètement fusionné avec la société R. Et c'est vraiment deux enfin tu vois, genre il y a vraiment ce truc de, c'est marrant parce que ça s'opposait déjà à bien des niveaux avant, et la manière dont ça a évolué, c'est vraiment deux écoles très différentes
vis-à-vis de après le métal essaye pas, en vrai le métal essaye, parce que quand tu regardes en fait depuis, bon c'est vrai que depuis le Hellfest et l'explosion du Hellfest, l'image du métal elle a un petit peu changé, tu vois, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus devenu un truc de soifard un peu rigolo que de sataniste qui découpe des têtes de poulet dans les cimetières, tu vois. Mais le métal essaye quand même de graber l'audience, de mine de rien.
Mais en fait, c'est intéressant là tout ce que vous dites, parce que on parle depuis tout à l'heure en fait du rapport à la marginalité, je pense. C'est-à-dire que le rap, tout comme le métal, ont été marginalisés pendant très longtemps. Ils le sont encore à différents niveaux. Le rap, par exemple, aujourd'hui, d'un point de vue, et c'est là aussi, on peut rentrer un peu dans les détails. D'un point de vue économique, par exemple, il est plus marginalisé, le métal, le rap. Ouais. Parce qu'il rapporte de l'argent, et qu'on est dans un monde où ça, c'est, on te marginalise plus si tu peux générer une manne financière importante. Peut-être que le métal d'ailleurs a moins cette force et de générer beaucoup d'argent. Je sais pas, je lance juste des pistes comme ça.
Maintenant, on est trop occupé à se foutre sur la gueule.
Et que donc, si on a un peu plus accepté le rap, c'est avant tout parce qu'il fait du fric et parce qu'il y a un auditoire, une audience actuellement, quoi. Et je pourrais être pareil si c'était le métal, s'ils avaient réussi un moyen de vraiment de faire de l'argent autour du métal.
Puis le rap de manière générale, désolé, je te coupe, mais le rap de manière générale aussi parle aux gens du quotidien. Le rap, c'est une musique faite par le mec en bas de chez toi qui parle de la vie que tu vois tous les jours en bas de chez toi. De manière générale, bien sûr qu'il y a plein de raps différents avec plein de façons d'aborder les textes et tout. Alors que dans le métal, on est quand même sur un truc qui va parler à 0,01%. Je veux dire, les dragons, Satan, tu vois, tous les trucs de Nive, parce que c'est le métal, on parle souvent dans l'imagerie et dans les sujets abordés, dans l'esthétique. Encore une fois, ça reste très nerd. Ça parle de littérature fantastique, parfois de SF, de fantasy, de satanisme. Tu vas avoir quelques trucs assez urbains, voilà, dans le metal hardcore, dans le punk hardcore. Tu vas dans le crossover, voilà, ça, parfois aussi dans le thrash metal, ça va aborder des thématiques plus urbaines, plus reliées au quotidien, à la politique, tout ça. Ouais. Mais globalement, ça parle à qui, tu vois, les
Puis économiquement, c'est aussi quelque chose qui est plus dur à aborder, dans le sens où, genre, pour refaire l'opposition entre les deux, pour faire du rap, t'as besoin d'un pote qui fait pout, cat, pout.
Bien sûr.
Et toi, tu rappes par-dessus. Tu veux faire du métal, là, à l'heure actuelle, si tu veux essayer de faire un truc un peu propre, tu vas devoir claquer des cas là-dedans, tu vois. Et puis, c'est ça aussi, je pense, dans le rap, il y a aussi toute une part élitiste, parce qu'il y a toute une part technique, tu vois. Il y a les techniciens, la branlette, pareil que dans le métal, etc. Mais c'est pas un passage presque obligatoire, tu vois. J'imagine qu'il y a plein de sous-genres dans le métal ou qui sont pas forcément hyper techniques, etc. Mais il y a quand même un savoir-faire physique et du matos à avoir, etc. qui
C'est-à-dire que pour le métal, il te faut un dispositif qui est beaucoup plus gros que, comme dit, le rap, tu peux le faire de ta chambre, t'as un ordinateur, machin. Tu peux le faire aussi avec le métal, mais du coup, faut savoir gérer une boîte à rythme. Faut être multi-instrumentiste, parce que pour faire la guitare, la basse, faut pouvoir chanter par-dessus, faut un micro, faut de l'espace, parce que rapper chez toi, tu peux, hurler chez toi, c'est plus compliqué. Il faut pouvoir s'entraîner aussi. Donc, jouer des instruments, pareil, c'est compliqué. Tu peux le faire dans ta chambre, mais c'est compliqué, quoi, tu vois. Ou alors, il faut de la place, faut avoir une cave, faut avoir un jardin. C'est une musique qui demande d'avoir de l'espace et aussi ça encore si tu fais le projet d'un one man band, quoi qu'il arrive, voilà. Mais et en plus de ça, faut beaucoup de copains qui savent jouer de la musique, donc faut du temps, faut un lieu de répétition, faut donc effectivement ça
faut des copains,
faut avoir des copains, ouais.
Même si ça c'est à moitié valable, parce que y a des groupes qui, c'est parce que c'est une tendance générale dans la musique, qui tourne plus aujourd'hui, y compris dans le métal. C'est des groupes quasi fictifs de mecs dans leur chambre. Enfin, il y a aussi ça qui
existe. Il y a des one man bands. Tu connais Bataille?
On est là. Il y a la chronomusique qui cite Bataille.
C'est vrai que c'est le meilleur exemple. J'aurais dû te. Ça existe aussi. Donc,
ouais, bien sûr. Oui, ça existe aussi, mais c'est, le métal, quand même, à la base, c'est du rock. Tu vois, c'est un truc que tu fais avec tes potes. Voilà,
le live bassiste, a une place
un guitariste, une batterie, et let's go, quoi.
On y reviendra. Ce sera la troisième partie de ce podcast. On parlera du live, des festivals, etc. Parce que c'est effectivement une part importante. Et avant de passer à la deuxième partie, donc, qui est le métal aujourd'hui, dernière question qui se rapporte à tout ce qu'on vient de dire. Tu parlais des thématiques dans le métal. On le retrouve ça dans tes vidéos. Parce que t'as des vidéos parfois thématiques comme ça. T'en as fait une dédiée au métal et au-delà. Musique métal et l'au-delà. Sur les pochettes d'albums, évidemment, aussi avec le bouquin. Sur les vêtements, sur le fantastique, la SF, même la politique dans le métal, etc. On est d'accord que c'est le propre des grands mouvements musicaux, hein, toucher comme ça à plein d'aspects socioculturels. Mais est-ce qu'il y a une transversalité plus importante, tu vois, comme ça dans le métal? Est-ce qu'ils sont capables de relier des choses plus larges que d'autres mouvements, à ton avis? Au contraire, est-ce que, justement, comme tu le disais, c'est un truc de nerd, finalement, c'est pas si... Et je veux pour exemple, que je sais pas s'il y a beaucoup d'équivalents. Dans le milieu universitaire américain, il y a un truc qui s'appelle les Metal Studies.
Ouais.
Et les Metal Studies, c'est donc des chercheurs qui se penchent sur le métal, qui vraiment analysent ce mouvement, sa richesse, etc. Et c'est pas tous les mouvements musicaux qui ont droit à cet exemple. Alors, il y a peut-être un truc générationnel, etc. Donc, est-ce qu'il y a une particularité, voilà, dans cette transversalité, dans cette diversité des thématiques avec le métal, à ton avis, quand même?
La solitude. Et c'est de faire voler son pain au chocolat à la récré. Non, je rigole. non, franchement, j'aurais du mal à te répondre à ça parce qu'encore une fois, la réponse, elle est un peu dans la question. C'est tellement vaste. Il y a tellement de richesses. Et je veux dire, entre un groupe de raw black metal et un groupe de power symphonique, il y a tellement plus rien à voir, à part le fait de se brancher sur un ampli, tu vois, que moi, j'aurais du mal à trouver le point d'ancrage, tu vois, auquel on pourrait rallier tout ça, quoi. Aussi c'est le nordisme en fait, tu vois, c'est le fait de vouloir tryhard un sujet en particulier, quoi. Et c'est vrai que là-dedans, c'est sûr, genre, t'as des groupes de power ou de sympho ou de metal prog, tu vois, qui vont carrément écrire des sagas pour coller aux paroles de l'album, quoi. Puis à côté de ça, t'as Hatebreed, tu vois, qui va dire destroy everything, et ce sera les seules uniques paroles du morceau, tu vois, sur un riff jump the fuck up, quoi. Donc c'est ce truc transversal, moi je t'avoue que j'ai du mal à le trouver. D'ailleurs, c'est même pour ça que maintenant au Hellfest, t'as 6 festivals en un, quoi. C'est-à-dire que t'as les punks, enfin les fans de punk et de hardcore qu'on met à un bout du site, les mecs fans de metal mainstream et de Metallica qu'on va mettre devant les main stage, les fans de stoner et de musique bizarre qu'on va mettre sous une tente. Et en vrai, même moi j'ai des potes, tu vois, qui ne restent que dans un coin du festival.
Mais ça, il faudra qu'on en parle. Dans la troisième partie, on reviendra là-dessus, parce qu'effectivement, c'est pour ça que je voulais faire une partie carrément dédiée au festival. C'est que je pense que c'est assez représentatif de plein de choses qui se passent autour du metal et surtout qui n'ont pas d'autre équivalent dans les autres musiques, quoi. Mais on va déjà passer.
Peut-être dans l'électro, encore une fois.
Ah, intéressant. On en discute tout à l'heure. Passons à la deuxième partie.
Tintin.
Donc, pour cette deuxième partie, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter effectivement sur la scène métal aujourd'hui. Enfin, la scène, le métal, en tout cas, aujourd'hui. Et peut-être comme première accroche, parce que c'est une thématique importante dans la musique de ces dernières années. J'ai fait une vidéo, j'ai sorti une vidéo sur le métal justement il y a 2 ans à peu près.
Okay.
Et dans laquelle, en faisant des recherches, etc., j'étais tombé sur le fait qu'il y avait une transition quand même qui s'était effectuée assez tardivement, mine de rien, vers le streaming dans le cadre du métal. Et c'est-à-dire qu'à l'inverse du rap qui assez tôt s'est quand même emparé de l'outil, c'est seulement ces dernières années qu'on a vu qu'en fait le public, l'audience du métal, a commencé à trouver. Alors, est-ce que c'était parce que l'audience n'était pas prête? Est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas encore les plateformes, les ressources, que les labels, etc., qui n'avaient pas fait le boulot? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette transition qui s'est faite dans le mode de consommation du métal. Est-ce que tu confirmes ça? Est-ce que tu penses que les modes de consommation de la musique métal ont évolué avec le temps? Et même, je dirais, l'offre de musique, parce que c'est lié quand même, le mode de consommation, l'offre, etc. C'est comme ça qu'on a accès à la musique. Ces 10 dernières années, disons, à peu près, est-ce qu'il y a eu une évolution observable?
C'est encore le côté réfractaire du métal, tu vois, genre on met toujours du temps. Alors bizarrement, effectivement, on a très très vite investi Internet avec les forums et les webzines, parce que forcément c'est le côté communautaire, tu vois, on a besoin de se retrouver et de partager la musique. Après, dans le métal, on a encore beaucoup la culture du CD, du vinyle, Les groupes continuent de sortir leurs productions en CD et en vinyle, et aussi en cassette même parfois, c'est-à-dire qu'on en a encore là, tu vois, il y a un fétichisme de l'objet qui est hyper présent, donc même maintenant si c'est des petits tirages, c'est-à-dire que généralement, bon tu vois, à moins que ce soit des très gros groupes, mais quand tu vas sur les Bandcamp, c'est, voilà, on tire 200, 300, 400 vinyles, les labels c'est à peu près pareil, tu vois, alors t'as les groupes qui sont indépendants, qui s'autoproduisent, et t'as les labels parfois qui sont là derrière, même si la plupart du temps, bon... On pourrait discuter aussi de l'utilité à l'heure actuelle avec Bandcamp et tout des labels. Mais c'est vrai qu'il y a encore ce truc d'avoir l'objet physique, entre les mains. On parlait des thématiques métal tout à l'heure. Bah, c'est vrai que c'est. Alors, peut-être pas pour les clips, mais en ce qui concerne les pochettes d'albums, bah, c'est un truc qui est encore très visuel, le métal, tu vois. Mmh. Des belles pochettes, très colorées. Il y a parfois autant, si ce n'est plus, de soins apportés à l'imagerie qu'à la musique, quoi. Donc, forcément, faut que ce soit accompagné d'une sortie vinyle, d'une sortie cassette, de t-shirts, de merch. Voilà, c'est les fans de métal consomment énormément de merch. Que ce soit t-shirt, hoodies, patch, tu vois, on parlait des vestes à patch tout à l'heure.
Ça représente 80% de leur garde-robe, je pense, hein, les t-shirts de groupe.
Ah bah oui, c'est le lifestyle, quoi. C'est-à-dire que bah forcément, t'as la veste à patch, même sur ton sac, t'as les patchs. Ça, même dès l'adolescence, tu vois, c'est un truc que les métalleux ont ce côté encore adolescent, tu vois, les patchs, les groupes écrits en blanco sur ta trousse ou sur ton sac. Bon là, c'est plus des blancos, c'est plus du blanco, c'est des patchs. Mais ouais. C'est encore il y a un mode de consommation qui est propre au métal. Peut-être que tu l'as aussi, encore une fois, dans l'électro, parce que dans l'électro, vu que c'est la culture du sampling, tout ça, bah forcément, il faut consommer du vinyle. Mais je pense pas que tu vois dans les autres
ça dépend des styles de musique électronique, mais oui.
Voilà, ça dépend, j'imagine, oui. Mais tu verras dans les musiques actuelles, aujourd'hui les gens, c'est très rare qu'ils pressent du vinyle, du CD et de la cassette, quoi, surtout de la cassette.
Il y a eu évidemment un revival et par rapport à l'objet, etc. Mais je crois que t'as raison dans le métal. Moi, je l'ai observé dans les concerts. On voit qu'en fait, le merch de fin de concert, il reste, enfin dans le cadre d'un concert de manière générale, il reste extrêmement important, et j'imagine que c'est une manne financière non négligeable pour les groupes. Oui. D'ailleurs, on sait que dans la musique, de manière générale, soit t'as le streaming qui rapporte beaucoup d'argent, et aujourd'hui c'est essentiellement le rap, une partie de la variété de la pop aussi évidemment, de R&B, soul, etc. Et puis à côté t'as un autre modèle économique qu'on retrouve beaucoup plus dans le rock et dans le métal, qui est la tournée, le merch, etc. Et effectivement, le mode de consommation, en fait, j'ai l'impression qu'il joue sur plein d'autres aspects globalement, et le modèle économique aussi rentre en compte, etc. Donc on parlera du live tout à l'heure, mais au final, mais est-ce que tu penses quand même que le streaming petit à petit rentre dans les mœurs quand même du métal, parce que c'est pas une musique non plus en dehors de la société, le métal, j'imagine que comme tout le monde, les métalleux, ils ont envie d'écouter sur Spotify aussi leur musique, quoi.
Je pense qu'on n'échappe pas au capitalisme écrasant. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment t'es obligé de suivre le mouvement. T'as pas le choix. Les kids aujourd'hui, ils écoutent la musique sur leur téléphone ou sur leur laptop, ou voilà, et du coup, bah oui, t'es un peu obligé de te plier aux exigences du public et aux exigences du capitalisme, bien évidemment. Donc même si t'as encore la tradition du vinyle, du CD, de la cassette et du t-shirt, etc., qui marche encore même chez les jeunes aujourd'hui, hein, parce qu'il y a tout le lifestyle qui va derrière. De plus en plus, effectivement, les groupes passent par le streaming. Ça, t'as pas le choix. Après, en termes de chiffres, je sais pas du tout ce que ça représente, parce que pareil, dans le métal, il y a eu très rapidement la culture du full album sur YouTube. Très rapidement, moi, n'importe quel groupe, que ce soit des vieux groupes des années 80 qui existent plus ou des groupes actuels, tu t'appelles le nom du groupe et full album sur YouTube, tu l'avais. La plupart du
temps, quand tu dis full album, c'est-à-dire qu'on lance la vidéo, en fait, il y a toutes les tracks de l'album qui s'enchaînent.
C'est ça. Donc disponible gratuitement, donc uploadé de manière illégale ou légale, ça dépend des cas. Bien que maintenant YouTube a tendance à resserrer, et effectivement, bah la plupart du temps maintenant les full albums, c'est des deals directement avec les maisons de disques, alors qu'avant c'était un peu plus à l'arrache quand même. Mais bon, bah finalement les labels se sont pliés à, tu vois, uploader les full albums de leurs artistes sur YouTube. Et puis bah à terme, oui, Spotify et Deezer et compagnie, iTunes. Parce que t'as pas le choix. Mais bizarrement, c'est vrai que dans les conversations avec les musiciens, c'est pas un truc qui revient. Genre là, on va sortir l'album, on va le faire presser. Bon là, on l'a uploadé sur YouTube, on a eu des retours, tout ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas encore ce truc de « ah, t'as streamé tant ». Tu vois, comparé au rap, par exemple, c'est vrai qu'on aime bien sortir les chiffres. Et tu vois, aujourd'hui, c'est ce qui fait un peu office de disque d'or, disque de platine et n'importe quelle autre récompense. Il n'y a pas encore trop ce truc-là dans le métal, tu vois. On en est encore à... Bah là, on en a apprécié 500, c'est sold out, tu vois.
Alors, tu vois, c'est étonnant parce que derrière cette question, c'était pas anodin, le mode de consommation, c'est que... alors, on peut être critique, évidemment, envers le streaming, etc. J'ai fait plein de vidéos sur le sujet, où parfois je suis critique. Mais par contre, il y a un truc qui est indéniable, c'est que tu avais évoqué Bandcamp, c'est que ça offre la possibilité à beaucoup plus de gens de partager leur musique. Parce que tu parlais de pressage, etc. C'est un certain coût, notamment du vinyle, c'est pas évident à sortir. Est-ce que, toi, selon toi, ce que tu observes, est-ce que justement, avec le numérique qui est quand même de plus en plus présent, même si un peu, tu nous dis que le genre est un peu réfractaire à l'origine, mais que petit à petit, quand même, les mœurs changent comme la société. Voilà, tout simplement, ils ne sont pas complètement détachés de tout ça. Ouais. Est-ce que ça a justement ouvert le spectre de l'offre? Est-ce que ça, l'offre s'est augmentée? Et maintenant, comme c'est facile de s'enregistrer en home studio, même pour du métal, comme c'est facile d'uploader en moins de deux sur les plateformes, etc. Est-ce qu'il y a plus de propositions?
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de groupes qu'avant. Okay. C'est-à-dire qu'à l'époque, tu vois, le métal, bon, il y a toujours eu plein de petits groupes underground qui sont passés sous les radars forcément. Moi qui suis un gros digger du heavy des années 80 par exemple, t'as l'impression que c'est une manne infinie, qu'en fait déjà dans les années 80 t'avais des milliers de groupes, et qu'en fait finalement à l'époque bah, t'avais Maiden, Judas Priest, tu vois, et tous les gros noms en fait, et qu'à côté de ça bah, t'avais tous les petits qui ramassaient les miettes. Aujourd'hui t'as plus de très petits ni de très gros, t'as surtout plein de moyens groupes. C'est-à-dire qu'en fait, justement, les festoches se posent un petit peu la question de quelles seront les futures grosses têtes d'affiche. Parce qu'il faut les trouver maintenant. C'est-à-dire que t'as pas, comme à l'époque, voilà, t'as un groupe hyper, t'as un groupe qui se crée, hyper, il devient fat, et puis bah, finalement, pendant 15, 20, 30 ans, c'est le même groupe que tu vas en tête d'affiche. On a eu ça avec les Maiden, les Black Sabbath, les Judas Priest, les Saxons, bon, je vais pas tous les faire. Aujourd'hui, ça devient peut-être un peu plus compliqué, justement, de trouver quels seront les futurs gros de demain. Parce que bah il y a tellement de propositions que ça devient un peu compliqué. Et puis en plus il y a de plus en plus de niches. Surtout dans le métal, on parlait des niches. Bah alors là t'as 1 milliard de petites niches. Ça devient compliqué justement de trouver ces gros groupes, tu vois, qui fermeront les festoches et qui feront les têtes d'affiche des futurs festoches. Mmh. Et parce que justement t'as une proposition qui est telle aujourd'hui, que ce soit via YouTube, via Bandcamp. Alors c'est moins la culture SoundCloud le métal. T'as pas trop de groupes sur SoundCloud. Que bah effectivement même moi je me perds, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour suivre les nouveautés c'est impossible. Il y a 10, 15, 20 ans j'arrivais, tu vois, à regarder un peu tout ce qui se faisait, à avoir un œil sur ce qui se faisait à peu près de manière générale. Là ça devient dur. Mmh. Ça devient dur parce que bah t'as tellement de niches, il y a tellement de propositions dans chaque niche, parce qu'effectivement bah c'est devenu facile d'enregistrer avec le home studio et de diffuser sa musique via les plateformes et les réseaux sociaux. Que bah voilà, c'est devenu. Mais je pense que ça, c'est pas forcément un truc que tu retrouves que dans le métal en fait. Hein, ce truc-là, tu l'as à peu près dans tous les sous-genres musicaux. C'est la démocratisation du home studio et bah, le fait que n'importe qui peut diffuser sa musique sans label, quoi.
Mmh, bien sûr. Non, c'était pour justement rappeler que j'imaginais que ça se passait comme ça. Hein, je voulais quand même te demander. Ouais, ouais. Et c'est pour rappeler que c'est une musique comme les autres en fait aussi, et qui derrière, il y a les mêmes un peu les mêmes mécanismes à l'œuvre, bien entendu.
Ouais, complètement. C'est devenu. C'est aussi c'est la magie d'Internet. C'est-à-dire que t'as ce truc où tu peux aller écouter un groupe de gore grind qui vient d'Asie du Sud-Est et te dire ouais, putain, c'est quoi ce truc-là? C'est trop bien. Et en même temps, bah ouais, tu passais à côté de la perle, tu vois, parce que c'est noyé dans un flux aussi, quoi. C'est noyé dans un flux.
Tu saurais quand même dégager là en 2021 quelques têtes d'affiche. Vraiment,
ouais, quand même.
Ou des étoiles montantes.
Quand même. Bah, en fait, le truc, c'est que les étoiles montantes, les futures grosses têtes d'affiches, c'est plus des groupes qui ont percé dans ces 10-15 dernières années. Donc, tu vas avoir un Gojira, forcément. Ouais. Tu vas avoir Ghost. Tu vas avoir peut-être un groupe ricain comme Avenged Sevenfold.
Mmh. Ouais, ouais.
T'en as quelques-uns qui vraiment se démarquent, où tu dis ouais, effectivement, eux, ce sera les futurs pontes, qui le sont déjà même plus ou moins, parce qu'aujourd'hui
c'est ça que j'ai envie de dire. On pourrait même citer, je sais pas, est-ce que c'est ces 10-15 dernières années, mais je pense à peu près, même peut-être plus récent, des Périphéries, des Bring Me the Horizon, des trucs comme
alors,
ça.
Alors Bring Me the Horizon complètement, ça fait partie des gros. Après tu vois Périphéries, ça reste quand même de la niche, hein. Périphéries,
ah ouais, moi je les vois pas un peu plus
Je les vois pas clôturer un Hellfest par exemple, tu vois. Je les vois plus jouer à 16-17 heures sur une main stage, mais de là à clôturer un festoche, non.
Et ça, c'est des groupes, si je dis pas de bêtises, ils sont pas apparus ces deux dernières années. Donc en fait, t'as personne qui pète très vite.
Actuellement, je t'ai dit, moi, dans ces 5-10 dernières années, ouais. On a plein de groupes qui sont de taille moyenne, mais on n'a pas les gros blockbusters, tu vois, comme on avait à l'époque, quoi. Ouais. Et là, les futurs blockbusters, bah, comme on disait, c'est des blockbusters qu'on perçait il y a 10-15 ans, quoi. Donc, j'ai vraiment du mal à anticiper ce truc-là. Peut-être qu'il y en a qui vont émerger, peut-être que, tu vois...
Je sais pas dans quelle mesure, par exemple, toi, tu vas considérer que Polyphia, c'est du métal ou...
Ouais, métal prog, quoi.
Ouais.
Metal prog, ouais, metal prog, mais pareil, Polyphia, pour moi, c'est pas assez
niche,
gros. Et si tu veux, c'est une musique qui parlera pas assez aux gens, c'est pas assez fédérateur pour mettre ça en tête d'affiche.
Ouais, nous,
vois.
Ça nous a matrixé, parce que tu sois guitariste, que tu sois pro 2, beatmaker, etc., c'est un truc qui est marquant. Et,
bien
mais
sûr,
c'est vrai que c'est peut-être que Polyphia. Pour le grand public, je sais pas, je me rends pas compte.
Non, pour le grand, encore une fois, faut dire que le groupe Blockbuster, faut que ce soit un truc fédérateur qui parle à tout le monde, tu vois. C'est-à-dire que comme on a dit, le métal, c'est aussi une guéguerre de chapelle, mais un Maiden, ça va quand même réunir tout le monde, tu vois. Un Gojira, même si t'as quelques réfractaires, tout le monde respecte plus ou moins Gojira, tu vois. Ne serait-ce que pour la prouesse, tu vois, d'avoir fait un groupe de métal français qui perce, tu vois. Donc là, c'est vrai que pour le futur, moi, j'ai vachement anticipé. T'as peut-être Code Orange. Tu vois, il y a des groupes de la scène punk hardcore qui font du métal, qui commencent à, bah, tu vois, Code Orange, ouais, un truc comme Turnstile, mais encore Turnstile, c'est peut-être un peu trop niche, tu vois, mais ils font partie des pontes de la scène punk hardcore, qui ont un peu dérivé vers autre chose avec le temps, tu vois, qui sont de la culture MTV, tu vois. Eux, c'est vraiment les enfants de la culture MTV. Qui écoutait autant du hard, enfin, tu vois, bah, qui était vraiment de la période fusion, on va dire, tu vois, donc rap, metal hardcore, hip-hop, qui commence là à grossir, mais après.
Et sans forcément pas les futurs mastodontes, mais des groupes qui, pour les amateurs de metal, ont émergé, disons, ces 5 dernières années, on restreint un petit peu plus pour avoir des trucs vraiment un peu plus frais, peut-être. Pas forcément des futurs stars,
ouais.
mais des groupes quand même qui sont, tu vois, qui marchent, quoi. T'en aurais quelques noms,
Ouais, alors là, comme ça, je suis un peu pris de court, je t'avoue.
Bataille,
par exemple, je pense que là, on est bien parti. Ouais, on est, je vais clipper tous les moments où Chronomusique dit Bataille. Bah là, je t'en ai cité un, Code Orange, je pense vraiment qu'ils ont chopé un truc. Parce que là, en plus, t'as quelque chose qui commence à se dessiner. Maintenant que le revival années 70-80, il est passé, là, on a le revival 90 qui arrive, et même le revival 2000. Et eux, ils sont en plein dedans. C'est-à-dire qu'esthétiquement, et dans les références, et dans les influences, tu sens qu'il y a MTV, tu vois. Tu sens, il y a le néo-metal des années 90-2000, il y a le Deftones, il y a le punk hardcore aussi, vraiment, années 80-90. Il y a un truc qui se dessine, là. Il y a un vrai revival qui arrive. Et clairement, le fer de lance de ce revival, ça va être Code Orange, tu vois. Après, est-ce que Code Orange, c'est pas un peu trop niche pour vraiment, tu vois, satisfaire tout le monde et faire de la tête d'affiche, je sais pas. Après, dans les groupes prometteurs qui ont des choses à dire, tu vois, ce qui est bizarre, c'est que j'ai du mal à te le sortir déjà, tu vois. Ouais. J'ai du mal. Je pourrais, tu me parles de black metal, alors oui, je vais te dire, regarde les hommes tombés en France. Je vais te dire des groupes comme Ruin of the Beverast, tu vois. Peut-être Midnight Odyssey. Encore là, on parle de mes goûts perso. Dans le death metal, t'as Century Media qui signe tout le roster de Maggot Stomp, qui est un label death metal, on va dire death metal très gras et un peu teubé aussi, mais qui est très drôle. Et en fait, t'as tous les groupes intéressants de ce label-là finissent chez Century Media. Donc par exemple, Sengisu Gabog, Frozen Souls, qui sont vraiment deux groupes de death metal qui vont reprendre ce qu'a laissé Bolstrower et Mortician, tu vois. Mais là, tout de suite, on rentre dans de la niche, tu vois. On arrive sur des trucs encore, genre, ça va parler qu'à certains types de métalleux, machin. Donc, c'est
mais
pas des trucs.
Tu dirais qu'il y a des nouvelles esthétiques qui commencent à se dégager un petit peu ou pas du tout, genre.
Moi, je trouve ça.
Il y a des trucs où récemment, tu les as entendus, tu t'es dit, ah putain, ça, c'est le turfu.
Moi, sincèrement, en fait, je trouve que le métal commence un peu à se mordre la queue, là, ces 10 dernières années. Sans vouloir faire le vieux con, hein. Je pense que le dernier style qui a vraiment révolutionné pour moi, qui a vraiment amené un nouveau son, une nouvelle esthétique, une nouvelle façon de concevoir le métal, c'est le djent, tu vois. Le djent et tous les trucs de metal prog moderne qu'en ont découlé. Ça peut aller de Le Proust à Polyphia, hein, vous l'avez cité. Ouais. Il y a Carbomb aussi, Carbomb qui est un truc qui mélange. En fait, c'est du métal très bourrin qui va mélanger du matcore à du Meshuga, et en même temps qui va apporter ce côté très technique et très prod. C'est-à-dire que quand t'écoutes leur son, tu sens que derrière c'est des foot studios, les mecs, et qu'ils ont vraiment polissé leur son pour donner quelque chose d'assez inédit. Donc pareil, c'est des sons assez nouveaux, mais en fait dans le prog, de toute façon, t'as toujours de la nouveauté. En vrai, que ce soit le rock prog 70s, le metal prog ou le metal prog moderne qu'on a filé au djent, tout ça a toujours été des musiciens qui voilà, qui avait besoin de renverser les codes et d'apporter des nouvelles choses. Et c'est presque limite un bail à part du métal, tu vois, même si c'est affilié. Pour ce qui est vraiment du renouveau dans le métal, moi je trouve que... Alors si dans le black metal, t'as eu toute une vague un petit peu ce qu'on a appelé le post-black metal, c'est un style qui a un peu modernisé le black metal, qui l'a presque rendu plus accessible en termes d'esthétique et tout, ce qui fait que bah, t'as pas mal de... même de... Tu vois, t'as un peu tout le milieu hipster. Bon, les hipsters, je sais pas si ça existe encore. Je crois même que c'est un gros mot aujourd'hui. Il y a plus le droit de le dire. Mais à l'époque, tu vois, t'as même les hipsters qui s'étaient mis au black metal avec des groupes comme Def Heaven, justement. Où quand ça arrivait, en fait, c'était assez nouveau dans le metal. Ils ont tout de suite été catalogués dans le truc d'arriviste hipster dégueulasse, tu vois, post black metal. Mais en vrai, ça a apporté un petit peu de nouveauté. Ça a permis d'ouvrir le black metal sur un peu d'autres choses. Où il y a aussi le shoegazing qui a été intégré au black metal avec des groupes comme Alcest, tout ça. Donc ça a un petit peu révolutionné aussi le son. En tout cas, ça a donné de nouvelles branches encore à explorer dans le black metal.
Est-ce que comme dans plein de groupes, la modernité aujourd'hui, elle passe par la fusion, par le mélange des genres,
oui,
etc.
Oui, oui, oui. Là, t'as plus trop le choix, en fait, quoi. Ouais. C'est-à-dire que j'ai quand même ce sentiment que tout a été fait, tout a été dit, et que maintenant, c'est vraiment dans des trucs hybrides, complètement improbables, que tu vas pouvoir choper un peu de nouveauté et pouvoir secouer un peu les normes. Quitte à faire grincer les dents, tu as pas mal de gens, mais il y a que par là que tu pourras justement apporter de la nouveauté, quoi.
Michel, parce que je sais que t'aimes bien quand même cette musique, t'es pas forcément un expert, mais t'aimes bien cette musique. T'as eu des claques, toi, métal, ces dernières années
Ces dernières années, enfin, moi, si je considère Polyphia comme du métal, ouais. Donc, ouais, enfin, genre, Polyphia, pour moi, ça a été vraiment une grosse start. En vrai, moi, c'est plutôt... Justement, t'as Tim Henson. Enfin, moi, je regarde plutôt les guitaristes que les groupes. Évidemment, je me suis pris Pliny, comme tout le monde, dans le prog. Moi, je suis beaucoup plus prog que quoi que ce soit d'autre. Mmh. Je me suis pris Pliny dans le prog et tous les enfants de Pliny. Et je considère que Tim Henson, il fait un peu partie de cette vague-là aussi. Et là, récemment, il a pas mal fitté avec un mec qui s'appelle Manuel Gardner. Et qui fait des trucs vraiment intéressants. Je trouve il vocode sa guitare, tu vois. Donc genre, franchement c'est vraiment stylé. Il fait des trucs où genre en gros lui sur son manche il fait pas de notes, il fait juste la rythmique. Il met les accords en midi dans un vocodeur et donc ça fait un truc vraiment très stylé. Ouais, et puis après, bon, il fait aussi d'autres trucs où il va te jouer des licks et ça va être harmonisé, machin, etc. Esthétiquement, ça me plaît beaucoup. Et sinon, je dirais, Tesseract. Tesseract pour moi, ouais, c'était vraiment quand c'est arrivé. Bon, après, là, ça commence à faire un petit temps. Je crois que moi, j'avais découvert ça en, je sais pas, peut-être 2014-2015.
En plus, ils sont très affiliés à la scène metalcore. Et c'est vrai que le metalcore, ça commence un petit peu à même beaucoup perdre de la vitesse, quoi, j'ai l'impression.
Ouais. Mais vas-y, c'est... En fait, moi, ce que je kiffe trop chez Tesseract, c'est que c'est de la technique en soum-soum, tu vois. C'est que c'est genre, c'est pas de la technique en mode, vas-y, on va vite et on t'en met plein les yeux, tu vois. S'il y a une espèce d'élégance dans la manière dont cette technique, ça va être beaucoup bien plus sûr, dans les signatures rythmiques, tu vois, des trucs comme ça, mais dans des... Et ça, c'est jamais au détriment du bougeage de tête. Tu vois, genre tu peux bouger la tête sur du Tesseract, il y a aucun souci, mais en même temps tu peux prendre ton pied et te stimuler intellectuellement en l'écoutant et tout. Ça, c'est un truc que je kiffe blindé, un truc que je retrouve beaucoup moins chez The Animals Leaders, que je kiffe aussi, tu vois.
Et bah tu vois, j'allais les citer avec Tosin Abasi évidemment et Animals as Leaders. Pour moi, en plus, c'est pas une musique que j'aime fondamentalement. Enfin, c'est pas un groupe, c'est que quand je l'écoute, je me fais plaisir. Mais par contre, à chaque fois que je l'écoute, je me dis, j'y comprends rien, ou en tout cas, ça me provoque un truc et je me dis, putain, ça me waouh.
Ouais, même j'assiste. Le premier album de l'éponyme de Animals as Leaders, parce que moi justement je trouve que la technique elle est au service d'un truc hyper aérien, hyper agréable. Tu vois, il y a un truc, même si tu sens qu'il y a de la technique et que le mec en fout partout et qu'il est trop fort, il y a une espèce de couche atmosphérique par-dessus tout ça qui
est
hyper agréable, hyper accessible, en fait, quoi.
J'avoue que j'y suis assez peu, en fait, autant j'adore le mec et le guitariste et parce qu'il m'impressionne, etc., autant je suis pas sensible à sa musique.
Ok, c'est d'accord. Vrai.
Mais je pourrais le mettre dans la catégorie claque quand même, parce que tu vois, ça m'a interpellé, quoi. Tu vois, ça m'a dit, ah! Qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Tu vois, c'est intéressant.
Ouais, encore une fois, tu vois, ça va être les progueux, les techniciens de la musique qui arrivent à pousser encore dans de nouveaux retranchements. Après, c'est intéressant, mais ça, c'est une constante de la musique progressive, j'ai l'impression, tu vois. Alors que le métal, c'est bien que le prog et le métal puissent fusionner, mais le métal, il y a aussi ce truc où t'es censé avoir ce coup de poing un petit peu, genre on renverse des normes, on fout le bordel, on arrive. Et même, il devrait y avoir aussi un peu toujours ce côté provocateur. Si vraiment on parle de métal, tu vois. Après, bah, moi, ce truc-là dont je parle là, je trouve qu'il existe plus trop, quoi. Et le problème aussi dans le métal extrême, c'est que t'as beaucoup de bouffons qui pensent que provocateur, ou on va dire politiquement incorrect, égale être un gros facho de merde, tu vois. c'est un peu le problème du métal, et notamment du black metal, c'est qu'il y en a beaucoup qui pensent que, effectivement, la rébellion passe par ça. Alors que non, pas du tout. Je veux dire, le trash metal ou le death metal, quand ça est arrivé, ça a absolument tout renversé sur son passage. Et c'était pas des trucs de feufa, tu vois. Donc c'est un peu, y a un peu ce truc là aussi qui est chiant, c'est-à-dire que comment renouveler vraiment le truc en arrivant avec un discours coup de poing et renverser les codes et les normes, et en plus à côté de ça, tu vois, choquer tout le monde musicalement. Bah, j'ai l'impression que ça y est, tout a été fait, tu vois. Il y a plus vraiment et encore même le djent quand ça arrive. Moi, ce que j'ai bien aimé avec le djent justement, c'était de la musique un peu métal, tu vois, mais jouée par des mecs avec des cols relevés jusque là, et avec un niveau technique de ouf, et qui apportait aussi, qui avait pris un petit peu au prog, au death metal, au metalcore, tu vois. Il y avait un truc, ça renversait un peu certains codes quand même. Et puis ils arrivaient à se greffer sur des affiches de festivals de métal, tu vois, même s'ils avaient aussi leur festival à eux, notamment en Europe. On a eu l'Euroblast et le Techfest qui sont un peu spécialisés là-dedans. Ça a quand même, tu vois, ça a un peu renversé les codes, quoi. Et c'est ça que j'ai trouvé stylé avec le djent. Et puis bon, les mecs arrivent avec des 8 cordes, tu vois. Enfin, c'était trop marrant, quoi. Même s'ils ont pompé plein de trucs à Meshuga, qui était là depuis les années fin 80, début 90. Depuis ce truc-là, j'ai pas l'impression qu'il y a eu de vrai plot twist dans le lore du métal, quoi. Ouais. Mais après, effectivement, si on part sur le côté genre des gens qui apportent tout le temps musicalement, et en fait qui sont métal, mais pas tant que ça, bah effectivement, tu regardes les affiches de l'Euroblast ou du Techfest, donc les Animals as Leader, les Between the Buried Enemy, tu vois, tous ces trucs-là, les Le Proust, les Haken, ouais, tous les trucs prog vraiment qu'ont mis des claques ces dernières années, quoi. Là, ouais, t'as des trucs qui sont vraiment intéressants. En France, on a un groupe comme Clone aussi, par exemple. On a le groupe norvégien Shining, même si eux, ils sont partis en couille. Ils ont cette volonté d'essayer d'apporter des nouveaux trucs. Ne pas confondre avec le Shining suédois, qui lui est un groupe de black metal un peu bizarre.
Ni le film d'ailleurs,
le film Shining, voilà, qui est un peu métal dans l'âme, finalement.
C'est réel.
Et voilà, quoi. Si, en France, t'as Igor aussi qui essaie de faire des choses. Mais pareil, on s'apparente toujours à une musique prog, un peu pour les intellos, tu vois, très technique, où t'as que des purs icos.
C'est marrant. Parce que tout à l'heure, Michel, j'ai rebondi sur Tosinabasi, mais peut-être que tu avais d'autres encore claques à partager.
Non, j'avais un peu fait le tour de ce qui, moi, m'a marqué.
Dans cette vague-là, t'as un mec, alors je sais qu'il est des pays de l'Est, mais je sais plus lequel, t'as David Maxime Missik.
Ouais, lui, je l'adore.
Ouais, lui, c'est un dingo. Il est trop fort.
Ouais, il a une vibe. Quand il rajoute des trucs orchestral à la Pixar, c'est une dinguerie.
Complètement, et même des fois il fait carrément de la pop, parce qu'il a une chanteuse avec lui, chanteuse qui d'ailleurs a son groupe de pop à côté, que je pourrais pas citer parce que j'ai oublié, mais des fois il a carrément des phases, elle a presque un timbre un peu R&B des fois, la meuf, tu vois. Il arrive à mixer ça avec des trucs un peu djenty, metal prog et tout, enfin,
ouais.
C'est fou, quoi. Il est trop fort.
Et pour clôturer peut-être un peu ce chapitre, pas de name dropping, mais vous parlez un peu de groupe, de français, tu parlais d'Igor, est-ce que t'as d'autres français éventuellement dans tout le métal en général, peu importe les styles, qui ont un petit truc, soit qui buzz, soit qui se...
Bah, qui buzz pas forcément, mais c'est vrai qu'après, moi, je vais citer les copains, parce que moi, je trouve qu'on a un problème avec le métal en France. C'est que je trouve que c'est dur de trouver des bons groupes de métal en France. C'est con, hein, mais tu sais, il y a cette phrase que beaucoup de gens n'aiment pas, je sais bien, mais en France, on a 10 ans de retard sur tout. En France, on a des versions de groupes, version Lidl, tu vois. Bah, c'est un peu con, mais tu vois, pour me bouffer des centaines de groupes par semaine, parce que je fais des soirées jukebox avec mes abonnés où ils me font découvrir des groupes en live sur Twitch, peut-être pas une centaine, mais au moins une cinquantaine de groupes par semaine. Je peux t'assurer qu'à chaque fois, j'arrive à deviner qu'un groupe est français, parce que ça sonne moins bien, parce que ça sonne repompé d'un autre groupe.
Let's go.
Parce que ça, et c'est triste, mais dans 90% des cas, je me trompe pas. Et vous pouvez aller vérifier sur les rediffs, hein, c'est preuve à l'appui. En France, on a du mal avec le métal, et de toute façon, j'ai l'impression que de base, on a du mal avec la musique, hein. Bon, bref, ça, c'est un autre débat, on va pas l'ouvrir maintenant, mais c'est dur de trouver des bons groupes de métal en France. Mais puisqu'on peut en citer, bah, je vais citer tout simplement Worst Opt, qui est un groupe de métal hardcore parisien qui déboîte. Ils ont tout compris. Ça va de, pour vraiment tirer large, de Kickback à Dying Fetus, quoi. C'est incroyable. C'est hyper efficace. Il n'y a pas un riff à jeter. Et en plus, en live, c'est une dinguerie. Du côté de l'Ouest, on a un groupe de thrash metal hyper énervé qui s'appelle Executor. Ils ont sorti leur deuxième album l'année dernière, ils sont trop forts. En plus, ils ont l'attitude, en plus, très années 80, très 80s, et puis ils le font sans se la péter, quoi. Alors forcément, vu qu'on est dans le métal 80s, il y a un petit côté... Oui, certes, on se la pète un peu, mais c'est tellement bien fait.
Ça flexe un peu quand même.
Ça flexe un peu, et ils y croient tellement, et ils sont tellement forts, même techniquement, qu'ils ont droit de le faire, tu vois. Et en plus, ils arrivent à apporter une torse. C'est un hommage, tu vois, au métal, au trash metal, au heavy metal, et même un petit peu parfois au hard rock de ces années-là. Mais il y a quand même une petite touche de nouveauté. Il y a une petite ferveur que je vais pas trouver dans les autres groupes revival comme ça. Ils sont vraiment très forts. On a un autre groupe de heavy metal, toujours breton, aux alentours de c'est un groupe du Finistère, hein. C'est Herzl qui est un groupe de heavy metal épique, qui reprend autant au heavy metal, au power heavy metal traditionnel américain des années 80, donc Virgin Steel, Manowar, Mania Road et des choses comme ça, que des trucs un peu plus prog. Ils ajoutent une petite touche musique folklorique bretonne aussi parfois, tu vois. Donc c'est...
On voit quand même au final que t'arrives à citer pas mal de groupes, mine de rien. Donc c'est que quand même il y a des choses qui se font. Après peut-être que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, mais c'est dans toutes les musiques, c'est comme ça, j'imagine.
Si tu creuses, tu les trouves. Mais ce que je veux dire, c'est que comparé à l'Angleterre, par exemple, ou même aux États-Unis, ou même juste à la Suède. Et en plus, c'est des pays qui n'ont pas peur des mélanges, contrairement à la France, où on est un peu plus frileux sur les mélanges. Là-bas, t'as qu'à te baisser pour ramasser les bons groupes, surtout en Suède. Et même les pays anglo-saxons, de manière générale, l'Angleterre, les États-Unis, l'Australie, ils ont. C'est incroyable à quel point ils ont cette culture, tu vois, du rock, du les mecs, ils ont 16 ans, ils vont tu vois, les mecs qui faisaient du djent dans les années 2000, quand ils ont les Born of Osiris, After the Burial, tout ça, Veil of Maya, quand ils ont fondé leur groupe, les mecs ils sortaient du lycée, quoi, ils avaient 16 15 16 17 ans, quoi. Nous en France, un groupe qui fait un groupe d'adolescents qui va faire un groupe de métal, s'ils arrivent à reprendre correctement du System of a Down, déjà c'est le bout du monde, tu vois. Il y a un truc en France, on n'a pas cette culture du rock, mais même comme on n'avait pas la culture du blues ou même du rock de manière générale, il y a un souci, je trouve, en France avec ça.
Mais vis-à-vis de la musique, même de manière générale, la musique populaire en tout cas.
Ouais, et puis qui se retranscrit dans le métal, parce que forcément, le métal, c'est un peu l'héritage du rock, qui lui-même est un héritage du blues, etc. Et c'est pour ça que je suis même étonné, parce que finalement, si on regarde bien le hip-hop, c'est aussi un peu un descendant du blues, quelque part. Et en France, c'est incroyable comme le rap français a réussi, tu vois,
à devenir un truc à part entière,
et un truc qui déchire, tu vois.
Ça a été long, hein, parce qu'on a beaucoup reproché, notamment début 2000, quand le rap a commencé vraiment à devenir un phénomène important, à faire des ventes, etc. Après l'âge d'or, en gros, t'as eu un creux où on considérait quand même qu'on repompait beaucoup les ricains, quoi.
Oui, c'est vrai.
Mais en moins bien. Ouais, et c'est, je dirais que le switch, c'est plutôt 2010, autour de 2010, peut-être un peu avant, un peu après, je sais pas exactement dans les détails là, mais où là, ça s'est justement séparé un peu, et où il a commencé à avoir une vraie patte française, en fait, dans le rap.
Ouais, et puis il y a aussi dans le rap, je trouve, après, moi, je suis pas un grand spécialiste du rap, mais j'ai l'impression que ces dernières années, ça s'est tellement diversifié que c'est compliqué de pas y trouver son compte, même si à la base, tu dis, ouais, moi, j'aime pas le rap, je trouve que ça a chier. Il y aura forcément à un moment donné un ou deux groupes où tu vas dire, ah ouais, quand même, tu vois, il y a pareil, l'offre s'est diversifiée aussi, quoi, tu vois. Internet et le croisement des genres ont permis aussi au rap de, j'ai l'impression en tout cas, de créer plein d'hybrides où forcément tu t'y retrouveras à un moment donné, quoi.
Et alors, tu sais quoi, pour terminer cette deuxième partie, et puis brièvement on fera une troisième, mais on a déjà pas mal discuté, donc essayons petit à petit de se rapprocher vers la fin du podcast. Mais il y a quand même une thématique passionnante, et là tu parles de rap, etc., c'est que on parle de la vivacité du métal, de ce que c'est aujourd'hui, etc. Et un truc, moi, auquel je tiens, en fait, et c'était le but de la vidéo dont je t'ai parlé, que j'ai sorti là il y a 2 ans, où l'idée était de dire que le métal était peut-être à son top, je dis ça de manière un peu provocatrice, hein, mais en termes d'influence, en fait. C'est pas le métal en tant que tel qui est à son top, mais par contre, l'esthétique, qu'elle soit sonore, visuelle, etc., métal, a peut-être jamais été aussi influente qu'aujourd'hui. Pourquoi je dis ça? Alors, ça peut se discuter, hein, évidemment, tout ça. Ouais. Hein. Mais parce que j'ai l'impression que ça a conquis quand même un peu tout un pan de la musique populaire, l'esthétique métal, tu vois. Dans le rap, ces dernières années, on a eu tous les Suicide Boys, les XXXTentacion, Lil Peep, Young Lean, Scarlord, tous ces mecs. Tout ce qu'on a parlé aussi un peu de... On a parlé de emo rap.
Non, puis même les Chris Brown qui se ramènent avec des vestes Apache. Qui met un t-shirt Meshuggah.
Tu vas au H&M du coin, t'auras un t-shirt Metallica, tu vois. T'auras, enfin, dans la musique électronique, évidemment, on a Justice, Carpenter Brut, Perturbator. Limite, alors Justice c'est un peu différent, mais Perturbator, c'est la descente, c'est presque la relève du métal d'une certaine manière.
Après,
on peut
lui,
le voir comme ça,
lui, James Kent vient du métal. Il a eu un groupe de black metal et un groupe de djent justement. Donc il vient un peu de cette culture là. Pareil, Carpenter Brut, il a produit des groupes de métal. Et d'ailleurs, tu regardes, c'est des groupes de synthwave qu'on a filé à ce qu'on appelle la dark synth, ouais, qui est une synthwave un peu plus violente. Et sur scène, c'est aussi les premiers groupes de synthwave à avoir amené des batteurs et des guitaristes sur scène, tu vois. Mmh. Donc c'est des mecs qui viennent du métal. C'est pour ça que l'esthétique elle est autant métal. C'est pour ça que très vite ils ont tourné dans les événements métal. C'est parce qu'ils viennent du métal, tout simplement. Mmh. Et en plus de ça, quand tu regardes, bah, effectivement, alors, moi, ce que j'aime aussi dans le métal, c'est forcément l'imagerie qui l'accompagne, tu vois. Il y a toute une esthétique. Et en fait, quand Perturbator, et même quand Carpenter Brut est arrivé, t'avais tout de suite une grosse esthétique derrière. C'est-à-dire que t'avais le merch, t'avais des pures pochettes d'albums, t'avais des sorties vinyles, des sorties CD, t'avais tout l'attirail qui allait avec. Et c'est d'ailleurs pour ça que les métalleux sont, sans le savoir, hein, parce que les métalleux savaient pas que c'était forcément des gens qui venaient de la scène métal, se sont directement intéressés au projet, en fait. Parce que t'avais un accompagnement un peu nerd, en fait, encore une fois, tu vois, t'avais tout ce truc...
Le Carpenter Brut, je l'ai vu en live, utilise beaucoup d'images de giallo, etc., tu vois,
c'est
de
ça, cinéma exactement, italien. Exactement, les films d'horreur italiens des années 60-70, Perturbator avec sa grosse esthétique, quoi. Années 80, Akira, tout ça, Neo Tokyo. Mmh. Donc forcément, c'est très référencé, et ça a parlé aux fans de métal, tu vois. Ils sont pas sentis perdus.
Mais est-ce que t'es d'accord? Alors là, en l'occurrence, tu me dis qu'ils viennent vraiment de la scène métal, mais tous les rappeurs américains que j'ai cités précédemment, ils viennent pas de la scène métal. Et en plus, je trouve que quand même dans tout ça, on n'est pas en fait dans la simple fusion où tu vois le mélange des genres ou le featuring pour prendre un truc bateau, Run DMC, Aerosmith, tu vois. Enfin, on n'est pas dans cette espèce de pièce comme ça.
Là, on a une vraie fusion pour une fois.
Et puis surtout, tu sais, j'ai l'impression presque que c'est une forme de digestion. De décennies de culture populaire qui petit à petit la culture populaire a pris des éléments du métal. Ça, c'est pas une filiation directe avec le métal, c'est comment ça a été rebouffé par la culture populaire de manière générale, et là c'est régurgité dans plein de styles différents, dans le rap, dans la musique électronique, etc.
En fait, tout à l'heure on parlait, tu sais, de la culture MTV. Et en fait, je pense que là on a les premiers enfants de la culture MTV, en fait. C'est-à-dire que sur MTV tu pouvais avoir du Marilyn Manson, du Slipknot. Et puis après, t'avais, Cypress Hill ou n'importe quel artiste rap, du 50 Cent, par exemple, tu vois, j'en sais rien, ou du Eminem. Et je pense que, tu vois, à l'époque, alors c'est vrai que dans les cours de récré, nous, en France, on a connu un peu cette guéguerre. T'avais le groupe des skateurs métalleux, le groupe des mecs qui venaient de la test, tu vois, qui écoutaient du rap, le groupe des mecs un peu plus hippie, babos, qui écoutaient l'électro et du reggae. J'ai l'impression que, alors je sais pas si aux États-Unis ils avaient vraiment ce truc-là, les trucs de. Déjà, je pense que c'était un peu plus mélangé, d'une. Et deux, quoi qu'il arrive, même si à l'époque il y avait quand même ces petites guéguerres de cours de récré, mine de rien, tu les as assimilées, tu vois, ces différentes scènes. Et donc, forcément, une fois que toi-même tu deviens artiste, tu les recraches. T'en as cité pas mal, mais t'as Trippy Red, par exemple, tu vois, qui utilise carrément, lui qui a une imagerie hyper punk, en fait, quoi, tu vois. J'ai l'impression que toute cette vague d'artistes, en fait, c'est un peu le renouveau du punk, finalement. Et même dans l'attitude.
Danny Brown, dans le genre aussi, il y a un côté très punk, je trouve.
Qui, pardon?
Danny Brown, je sais pas si vous voyez ça.
Non, lui, je vois pas qui c'est.
Complètement cinglé, un truc très punk.
Mais ouais, dans tous les cas, mais même un 6ix9ine. C'est un gros quepon, en vrai, 6ix9ine. Tu regardes, il est fou. Pour faire ce qu'il fait, faut être un quepon complètement taré, tu vois. Tous ces mecs-là, XXXTentacion, tu l'as cité, tous ces mecs-là. XXXTentacion, qui d'ailleurs, dans un de ses clips, un short Marilyn Manson, encore une fois. Je pense aussi, c'est des mecs, voilà, qui ont été touchés par la culture punk, par la culture métal, par la culture MTV, où tout était un peu mélangé. Et aujourd'hui, ils le recrachent de manière hyper extrême. Déjà, parce qu'ils sont un peu aussi à l'image d'une société qui est quand même en ce moment assez énervée, je trouve. Et puis ouais, ils ont, tu vois, ces tendances à se tatouer partout, à changer de couleur de cheveux dans chaque clip, tu vois. C'est hyper punk, en fait, de faire ça, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, cet esprit un peu punk, un peu rock'n'roll, tu l'as beaucoup plus dans ce pan du hip-hop que dans le métal. Le métal qui est devenu quand même un truc un peu de petit blanc moyen, tu vois, qui gagne bien sa vie, tu vois, qui va pas prendre de risques, en fait, tu vois, qui va pas se mettre justement qui va pas se mettre dans la peau du punk, justement, parce qu'il a peut-être trop à perdre, tu vois. Et puis bon, c'est un genre qui est un peu installé, c'est, tu vois, bon,
je suis d'accord. Et en même temps, j'étais tombé là-dessus justement en faisant mes recherches pour la vidéo dont je parlais, encore une fois, où en fait il s'avérait, alors est-ce qu'elle est si récente que ça, je sais pas, mais que avec internet, la globalisation, etc., tu as beaucoup de groupes de métal dans le monde entier, en Afrique, en Asie,
ça commence à arriver pas mal, ouais.
Et avec des festivals même qui se montent, des scènes assez, ouais, assez vivantes. J'étais même tombé sur un docu d'un groupe métal syrien, alors, les pauvres sous les bombes, quoi,
c'est compliqué, c'était vraiment, ouais, la merde, ouais,
encore. Et ben c'est dans ce pauvre pays, mais ouais. Donc ouais. Et ça peut-être, ça peut permettre aussi une forme de renouvellement, tout ça quand même.
Tu veux dire l'hybridation via
oui,
via
à travers et d'autres cultures. Enfin, je réussissais parce que tu
ah
disais,
oui, par rapport à d'autres cultures,
ce métal très blanc aujourd'hui, très installé, etc. Oui, oui. Peut-être qu'il y a aussi des trucs qui peuvent faire bouger,
oui,
les
ça,
lignes
ça
comme
commence,
ça.
Oui, mais ça va commencer. Alors c'est vrai que pour l'instant, même moi, j'ai encore du mal un peu à tomber sur ces groupes-là. Okay. C'est assez confidentiel. Faut vraiment aller les chercher. Mais oui, ça commence à arriver. Et même tu commences à avoir aussi ce truc de où t'as beaucoup de groupes de métal qui commencent aussi à installer à intégrer d'autres cultures dans leur musique. Par exemple, je pense à un groupe comme Cult of Fire, en fait, qui est un groupe du coup qui fait vraiment partie des groupes qui ont un peu convaincu tout le monde ces dernières années, qui est un groupe de black metal, on va dire black death metal mélodique ésotérique, qui vient de République Tchèque, qui a fait un concept album en deux parties où en gros chaque morceau correspond à un rite funéraire d'un pays. Et en fait, ils vont comme ça choper des influences, des ambiances, même parfois même des instruments orientaux ou même exotiques par rapport à eux, pour l'intégrer à du métal, tu vois. Et ça donne un truc complètement improbable, complètement halluciné même parfois. Et je pense que tu peux commencer à voir apparaître ce genre de choses, effectivement, où tu vas mélanger. Alors, après, le métal qui se mélange à de la musique traditionnelle, on appelle ça le folk metal. T'en as ou le pagan metal, et t'en as partout dans le monde. Mais ce qui serait intéressant, c'est que ça commence aussi à fusionner avec des... où ça pourrait aussi devenir intéressant si ça commence à exprimer des... peut-être derrière un contexte sociopolitique, tu vois. C'est-à-dire que là, le métal, dans les pays occidentaux, bon, si, il y a peut-être des choses qui peuvent revenir, tu vois, il y a des conflits, il y a des choses qui vont pas dans notre monde occidental, mais bon, là, c'est un peu installé, c'est devenu un peu plan-plan. Mais est-ce que ces groupes, justement, n'ont pas des choses à raconter, tu vois, au-delà le fait d'ajouter un petit côté folklorique au métal, ce qui serait pas forcément très intéressant, même je pense que ça a déjà été fait, mais plus raconter des choses, tu vois, on parlait de Metal in Baghdad tout à l'heure, bah effectivement, je pense que ces mecs, et c'est Akrasi Koda même d'ailleurs, je crois, le groupe, bon bah là, je pense que le problème, c'est que eux, ils peuvent tellement pas s'exprimer que finalement, bah tu vois, c'est un peu biaisé, c'est-à-dire qu'ils vont faire de la musique, mais ça va être un peu biaisé, quoi, tu vois, ils sont obligés de parler du dictateur, tout ça, ils sont obligés de parler du... Tu vois, il y a un côté où en fait, genre, ils ont pas les pouvoirs de s'exprimer pleinement. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose de très crédible, même musicalement, politiquement, je sais pas, quoi. Après, je pense que oui, à terme, on va pouvoir peut-être voir émerger des choses. Émerger des choses qui... Parce que je pense que parfois, la musique punk et rock'n'roll se crée dans l'urgence. Enfin, même de base, je pense qu'elle se crée dans l'urgence. Et je pense qu'elle est crédible quand elle a été créée dans l'urgence, tu vois. Quand le métal est arrivé, c'est un truc urgent. Quand le punk est arrivé, c'est un truc urgent. Quand le hardcore est arrivé, c'est un truc urgent. Il y a un côté urgent. Et même, tu vois, quand le black metal est arrivé, alors que c'était des petits bourges, hein, c'était des petits blancs bourges, tu vois, dans leur Scandinavie, qui se faisaient chier, ils ont créé l'urgence eux-mêmes, tu vois, en s'entretuant et en brûlant des églises, tu vois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut que t'aies un contexte, il faut que t'aies un terreau, en fait, d'urgence pour, je pense, en tout cas, quand tu fais du rock'n'roll, pour qu'il en sorte quelque chose de valable, quoi. Alors, c'est pas toujours le cas, on l'a vu avec le djent, mais le djent, finalement, c'est juste du prog, tu vois, c'est du prog amélioré. Je dis pas qu'il faut forcément se mettre dans la merde, tu vois, pour créer de l'art qui est crédible, mais en tout cas, quand t'es dans le rock'n'roll et dans le punk, ah, faut quand même qu'il y ait un petit fumet de dangerosité, sinon, je sais pas, ça sonnera pas, tu vois, il va manquer quelque chose.
Donc on va passer à la troisième et dernière partie du podcast, si vous le voulez bien.
Ouais, j'avoue, parce que là, j'ai endormi tout le monde, là.
Des lives, des festivals. Non, au contraire.
Tu peux le dire, tu peux le dire.
On est juste limité par le temps, mais c'est passionnant et tu le sais très bien. Donc on va parler des lives et des festivals, si ça vous va. À commencer, bien sûr, par le public, avant tout. Est-ce que tu nous ferais pas un petit quart d'heure sociologie du fan de métal?
Peut-être pas un quart d'heure, mais
oui. Allez,
est-ce que c'est pas plus ou moins ce qu'on vient de faire là pendant presque?
C'est vrai, c'est vrai qu'on a un peu fait ça d'une certaine manière, mais
oui.
Est-ce que le public quand même a évolué? Est-ce que c'est pas les est-ce que sur les 10 dernières années, c'est vraiment les mêmes gens qui vont, par exemple, dans les festivals? Est-ce que c'est les mêmes gens qui fréquentent le Hellfest? Tu vois, on n'a pas tout à fait abordé ces questions-là non plus, tu vois.
Non, le Hellfest aujourd'hui, non, c'est plus vraiment des passionnés de musique qui viennent au Hellfest. T'as encore un petit pourcentage, je pense, de gros passionnés qui viennent découvrir des groupes ou voir leur groupe préféré. Mais globalement, le Hellfest, et c'est très bien pour eux, hein, même ça m'arrive encore d'y aller, mais c'est quand même devenu un peu le parc d'attractions métal où tu viens, que ce soit pour la scéno ou pour l'ambiance ou pour boire des coups, où tu viens avec tes potes et même parfois en famille pour passer un bon moment. Tu vois, clairement, mais l'affiche a beau être assez pointue et couvrir à peu près tout le spectre des musiques extrêmes, c'est pas un festival où tu vas justement pour passer un moment entre passionnés de musique. C'est plus le cas. Tu vois, tu vas en trouver, hein, forcément, tu vas toujours tomber sur des mecs. Si tu vas peut-être sous certaines tentes à certaines heures, tu vas tomber sur un digger de métal et tu vas pouvoir discuter avec le musique et tout. Mais en vrai, c'est de plus en plus rare. Mais c'est aussi un choix du Hellfest. Hein, c'est un choix. Commercial, artistique, voilà, d'avoir ouvert le festival à toutes les populations et grand bien leur fasse. Après, c'est vrai que les gros diggers de Zik ont un petit peu déserté le Hellfest. Ça, c'est clair et net. Mais après, c'est cool parce qu'ils ont une scéno, ils ont un truc, tu vois, c'est un vrai petit monde à part entière, hein, le Hellfest, hein, avec les décos à la Mad Max et tout, c'est vraiment très stylé. Ils ont vraiment bien bossé et ils en ont fait un truc assez improbable, quoi.
Michel, t'as déjà, toi, participé à un festival ou à un concert métal
Oh oui, moi j'ai un festival. Si oui, j'ai fait. C'est comment ça s'appelle? C'est un festival en Belgique. J'ai oublié le nom.
Download, non?
Non, c'était pas ça. C'était Hyperfest.
Ah, le Hyperfest.
Ouais,
ok.
J'avais fait le Hyperfest avec des copains. C'était ma foi tout à fait sympathique. Mais bon, quand on est avec des copains, tout est sympathique. Puis il y avait des bières et tout ça, par exemple. Donc voilà, j'ai fait l'Hyperfest, c'était cool. Sinon, ben ouais, hein, j'ai été voir Tesseract en concert plusieurs fois. Et puis du coup, j'ai fait quelques scènes sur l'Hyperfest où il y avait des trucs très cool.
Et l'Hyperfest, est-ce que c'était
fanatique?
C'était des fans. Ah, c'était avec des gros métalleux?
Non, c'est plutôt des coreux, on va dire, tu vois.
Ok.
Donc, ils étaient dans les bails de Parkway Drive et ce genre de shiznit.
Donc, metalcore, quoi. C'est ça, l'Hyperfest, là, ça me dit rien comme ça. J'essaie de check, mais.
Et justement, il y avait un style particulier de métal ou c'était assez varié? Tu te rappelles dans tes souvenirs, Michel?
Il me semble que c'est assez varié, mais assez métal grand public, on va dire, tu vois.
Ok.
Genre, okay. L'affiche, pour moi, c'était des trucs genre que. Tous mes potes écoutaient, c'était pas des trucs. J'imagine qu'il devait y avoir des trucs pointus et tout ça, mais du coup, pour moi, c'était genre. Pour eux, c'était un truc de dingue parce que eux, c'est des coreux, tu vois. Mmh.
C'est où l'Hyperfest en Belgique?
Ouais, c'est. Alors, je me rappelle plus exactement, ça s'appelle. Mais Hyper, c'est I-E-P-E-R.
Ah.
Tu vois, et ça, mais c'est à Ypres.
Ah, le Yéper, le Yéper Festival.
Le okay. Yéper.
Moi, je dis le Yéper, c'est pour ça. Okay. Oh là là.
Oui, c'est le Yéper.
Ah, bah oui, c'est culte. Ah, non, mais c'est incroyable. Ah, oui, c'est un festival de hardcore avec un tout petit peu de métal, effectivement.
Ouais.
Et pur festival. Ah, oui, complètement.
Et ouais. C'était très cool, mais c'était il y a déjà quelques années, je crois que c'était il y a 5 ou 6 ans peut-être. Mais c'était très cool, je me suis bien amusé avec mes copains. Puis ouais,
en plus, il n'y a pas de crash barrière à ce festival, c'est cool.
Ah oui, mais c'est parce que les Belges sont très sympas.
Ouais. Et puis c'est le hardcore aussi.
Oui, c'est vrai.
Alors moi les gars, il y a un grand truc. On n'a jamais discuté de ça, je pense, dans des vidéos. Mais j'en parle avec les copains, etc. Il y a un truc qui m'interroge énormément. J'arrive pas à me positionner, vous allez me dire. Quand on prend le Hellfest, ou même on pourrait prendre le Download, le Wacken, enfin tous les trucs vraiment énormes, les énormes messes là autour du métal.
Avec 60 000 personnes par jour.
Est-ce que c'est bon signe ou pas que pour attirer des gens, on soit obligé de mettre quasiment tous les groupes du monde, toute la scène, mais pour qui en est absolument pour tout le monde, etc. Est-ce que ils font ça parce que en fait c'est le seul moyen d'attirer les gens, ou c'est juste parce qu'effectivement c'est la grande messe, on célèbre, etc. C'est cool. Mais ou est-ce que ça démontre peut-être aussi qu'il y a un petit problème, c'est qu'on est obligé d'aligner un line-up avec 20 groupes cultes qui ont 50 ans pour que les gens viennent, quoi.
C'est la grandiloquence du métal et du rock de manière générale. Non, c'est une bonne question. En vrai, tu vois, pour avoir fait toutes les tailles de festivals, il n'y a pas un modèle qui marche mieux qu'un autre, j'ai l'impression. Okay. J'ai fait des festivals à 300 personnes qui marchent super bien, des festivals à des jauges de 300 qui se cassent la gueule, comme j'ai vu des festivals à des jauges de 10 000 qui marchent très bien et d'autres qui se cassent la gueule. Tu vois. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de modèle économique qui marche mieux qu'un autre. Ça dépend comment tu gères ton truc. Après, les festivals comme le Hellfest et le Wacken ont justement, comme tu l'as dit, cette vocation à être des grandes messes. Et justement, à rassembler un maximum de personnes, à vendre les 60 000 tickets par jour, et à contenter le fan de black metal comme le fan d'Aerosmith, tu vois. Donc, bah, justement, ils alignent les groupes pour remplir les jauges, quoi, tout simplement, quoi. Mais après, ça, c'est un choix de leur part. C'est un choix économique, c'est un choix d'être gros. C'est un choix d'avoir une espèce d'égérie, avoir une espèce de monopole en fait du métal.
J'ai entendu un truc un peu grossophobe, si je puis me permettre.
Ah ouais, j'ai dit quoi? Parce que je suis grossophobe, donc ça m'étonne
ah,
pas.
Ah oui, non. Bah, alors pas de souci.
ils ont cette vocation justement à être des giants dans le milieu, quoi. Moi les deux formats me plaisent, hein. J'aime bien les petits festoches à 300 entrées. Des fois j'aime bien aller me perdre dans des foules de 50 000 personnes, tu vois. C'est même si j'ai de plus en plus tendance, tu vois, en vieillissant, à préférer les petits festivals. Je peux comprendre aussi. Il y a un côté un peu jouissif des fois, je trouve, tu vois, avoir 40 000 personnes devant un artiste, tu vois, et surtout en Allemagne, notamment au Wacken, où eux, par contre, c'est des vrais die-hard du métal, où t'as par exemple un de leurs groupes phares qui s'appelle Blind Guardian, qui joue une année sur deux, une année sur trois à ce festival, où t'as juste 40 000 Allemands qui chantent en chœur les paroles, tu vois. Une chose qu'on ferait pas en France, parce qu'en France, on connaît pas les paroles, tu vois. Mais il y a un truc stylé, tu vois, avoir 40 000 fans de ce groupe chanter les paroles ensemble, il y a un truc assez incroyable, assez magique qui se passe à ce moment-là, tu vois. Donc, après, la raison de pourquoi ils le font, bah, ils aiment l'argent, je pense.
Bon, en tout cas, c'est pas une nécessité pour réunir le public, les scènes métal, etc. Forcément, d'avoir un truc énorme, tu peux très bien avoir un truc moins ambitieux ou un seul groupe attiré du public, etc. C'est pas signe d'une certaine forme de malaise. Bah, ou de,
en fait, ouais. faut être malin. C'est-à-dire qu'effectivement, si ta passion, c'est le heavy metal 80 revival, sachant qu'il y a, doit y avoir 80 fans de ça en France, bah, si tu loues un Zénith pour faire ton festival, c'est que t'es teubé, et si tu coules, bah, c'est normal, tu vois. Le métal, on l'a dit, c'est un truc de niche. Si tu veux te spécialiser dans le black metal, sois à la hauteur de tes ambitions, quoi. Si tu veux faire dans le métal tout venant, bah là, effectivement, va falloir mettre en place un plus gros dispositif, bosser un peu avec tous les bookers, mettre un peu de tout, du métal extrême, du heavy metal, du hard rock, du hardcore, du mainstream, du moins mainstream. Ça dépend de tes ambitions. Le Hellfest, et à la base, ils viennent plus du hardcore, donc c'était un festival de hardcore. Petit à petit, ils sont allés vers le métal et ils ont dit nous, on veut satisfaire tout le monde. Nous, on aime à peu près tous les styles de métal. On vient de l'ouest de la France. C'est une scène qui est assez riche. Il se passe plein de choses. On veut faire jouer les groupes de death. On veut faire jouer les groupes de black metal. On veut faire jouer les groupes de hard rock. On veut faire jouer un peu tout le monde. Bah, let's go. On fait un truc généraliste. Donc voilà, ils ont commencé avec 3000, 4000, 5000 entrées, puis 10000, puis 20000, puis bon, ils avaient dit qu'ils arrêteraient d'augmenter la jauge, là on en est à 60000 par jour. Bon après, ils ont mis le doigt dans l'engrenage aussi, c'est-à-dire que ça a tellement bien marché que je pense qu'ils ont eu un peu la folie des grandeurs. Ils ont acheté du terrain là-bas et maintenant c'est devenu une espèce de cité dédiée au métal, tu vois, c'est toute une ville dédiée au métal. Ce qui est cool aussi, tu vois, après, effectivement, t'en as qui se cassent un peu plus la gueule, tu vois, t'as des festivals comme le Motocultor, qui sont pile entre les deux, on va dire, qui, il y a quelques années, ont dû faire un crowdfunding parce que niveau orga, ça tenait pas la route, quoi. Et pourtant, en termes d'affiches, ils sont comme le Hellfest, c'est-à-dire généraliste. Bon, bah, eux, voilà, ils ont peut-être pas eu les épaules ou ils ont pas eu la gestion qu'il fallait derrière. Bah, c'est toujours sur la limite, le Motocultor, tu vois. On sait très bien que du jour au lendemain, ça peut sauter parce que, bah, niveau orga, c'est pas ça. Alors que le Hellfest a eu, tu vois, la force de ses ambitions et d'aller au bout du truc, quoi. Donc c'est vraiment du cas par cas, quoi. C'est vraiment du cas par cas. Et les mecs, quand ils se plantent, bah, s'ils se plantent, c'est que ils n'hésitaient pas au bon endroit au bon moment. Moi, je vois beaucoup d'orgas se plaindre. Genre, ouais, bande de cons, vous allez tous au Hellfest et vous n'allez pas soutenir les petits concerts. Bah oui, mais gros, ton groupe, il y a que 5 fans en France, quoi. Donc c'est triste, mais ceci explique cela, tu vois, c'est logique. C'est triste, effectivement, mais c'est pareil partout, en fait, quoi. C'est normal que personne vienne à ton concert, mec. Vous avez... ouais, j'ai fait un concert de Hersh Noise Wall, Gore Noise, avec des groupes qui viennent du Japon. Bah oui, oui, il y a ta personne qui va venir. Oui, c'est normal. Non, vous êtes 5 fans de ça en France. Donc,
Et alors, dernier point avant qu'on se laisse. Je profite qu'on ait parlé du Hellfest pour amener ce sujet un peu polémique, mais qui me paraît essentiel quand on parle du métal aujourd'hui. On sait que voilà, autour du Hellfest, il y a eu des histoires de violence, de viol, etc., et que globalement, vis-à-vis des femmes, j'ai l'impression qu'il y a une voix qui s'élève de plus en plus dans le milieu du métal, une réflexion, un peu comme une prise de conscience générale dans plein d'autres domaines, hein, mais j'ai l'impression avec des spécificités dans le métal, ou en tout cas, on n'était peut-être pas habitué à se regarder un peu, cette réflexivité un peu, à dire, ok, qui on est, qu'est-ce qui se passe chez nous, ok, on est passionné de musique, mais au-delà de ça, est-ce qu'on est tous pareils, est-ce qu'il n'y a pas des différences? Et est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a une forme de prise de conscience, et aussi de politisation peut-être aussi plus importante, ou en tout cas de clivage, etc., qui émerge, ces derniers temps dans le métal?
Bah, effectivement, c'est-à-dire que le métal, on avait toujours l'impression que c'était, alors le fameux cliché de la grande famille du métal, tu vois, où finalement, c'est un espèce de, le métal, ce sera un espèce de machin très hétéroclite, où tout le monde s'entend, tout le monde est le bienvenu, tout le monde est gentil. Alors qu'en fait, c'est comme partout, t'as des saloperies qui se passent, et puis c'est comme partout, t'as du racisme, t'as de la xénophobie, c'est comme partout en fait, quoi, tu vois, c'est pas du tout un milieu qui est plus safe que les autres. Et donc bah quand il y a des voix justement qu'on commençait à s'élever, parce que bah effectivement via les réseaux sociaux, via certains hashtags, tout ça, bah il y a des voix comme tu dis qui se sont élevées. Et on a vu que dans le métal c'était tout autant la merde, voire plus, parce qu'en plus c'est un, enfin pas forcément plus, mais c'est un espèce de microcosme, le métal. On n'est pas non plus des centaines de milliers ou des millions à écouter ça en France, tu vois. Donc mine de rien, c'est pas que tout le monde se connaît, mais quand tu vas à un concert, bah, tu croises toujours, dans ta ville, tu croises toujours un peu les mêmes personnes, tu vois. Puis quand tu vas en festival, c'est un peu les mêmes têtes aussi que tu rencontres. Donc forcément, en fait, c'est devenu très vite ce truc on se rend compte qu'il y a des, tu vois, il y a anguille sous roche, quoi. Il y a des mecs qui sont pas forcément safe, il y en a qui font du sale. Et là, ça y est, ça commence enfin à sortir de ce truc de, bah non, le métal, c'est pas la grande famille, c'est pas tout le monde est safe, tout le monde, il est beau, il est gentil. C'est la merde comme partout. Il y a des gens qui profitent de la faiblesse des autres pour faire du sale, quoi. Et là, ça commence, enfin, et puis bon, faut dire ce qui est aussi, le métal, c'est quand même un truc de, je l'ai dit tout à l'heure, mais de petits blancs moyens, tu vois. C'est un truc de mec qui gagne plutôt correctement, voire bien sa vie. À la base, le métal, c'est vrai que c'est quand même un truc un peu plus, tu vois, ça vient un peu plus de les milieux du rock'n'roll, c'est un peu plus le milieu ouvrier, tout ça. Et petit à petit, bah, comme tout, tu vois, ça s'est démocratisé, ça s'est un petit peu embourgeoisé. Le rock et le métal, de manière générale, se sont un petit peu embourgeoisés. Et donc, ouais, bah forcément, t'as pas énormément de diversité. C'est un milieu aussi qui est un petit peu masculiniste, parce que tu vois, c'est la bagarre dans le pit, c'est sa gueule, c'est les gros muscles, on fait les méchants, tu vois.
Les bières et les barbes.
Ouais, les grosses barbes, moi, je me prends pour un viking, tout ça, tu vois, il y a ce truc un petit peu de, ouais, un petit peu masculiniste, quoi. Mais là, bah, vu qu'en ce moment, avec les réseaux sociaux, tout ce truc-là, c'est un petit peu en train, tu vois, les normes sont un petit peu doucement en train de changer. Bah, le métal aussi, tu vois, il y a ce truc dans le métal aussi, bah, ça va, voilà, c'est un petit peu en train de se décentrer, tu vois. Et tant mieux, en fait, tant mieux si ça peut apporter de la diversité, si ça peut éviter à des meufs de se faire emmerder en festival, si ça peut, tu vois, empêcher aussi tout le, bah, je l'ai déjà dit, mais dans le black metal, t'as quand même un peu ce racisme ambiant, tu vois, globalement, tu vois. Il y a des problèmes avec l'extrême droite dans le black metal, on va pas se voiler la face. Si tout ça, ça peut un
bizarre
petit peu...
Bizarre de s'appeler black metal et de raciste.
Étonnant, à mon effectivement. Avis. Effectivement, vous garderez cette blague au montage ou pas?
Oui, bien sûr.
Très bien.
Bien sûr.
On garde que les pires. Hein.
D'accord, parfait. Donc, on le sent, ce truc-là, c'est en train de pas de virer de bord, tu vois, mais c'est en train de, les langues se délient, on va dire. Les langues se délient et je pense que ça peut apporter que du bien à la scène, tu vois. À terme, je pense que ça peut apporter que du bien à la scène.
Écoute, en tout cas, il fallait l'évoquer parce que ça fait partie, voilà, des évolutions dont on parle depuis le début. En fait, on a essayé un peu dans cette émission de commencer avec un, ouais, de faire une forme d'état des lieux du métal, comment le définir, quelles sont ses spécificités aujourd'hui, etc.
Mais tu vois, c'est compliqué, hein. C'est tellement informe.
Ouais, bien sûr.
C'est tellement informe parce que c'est encore une fois, on l'a dit, hein, c'est des milliers. Le métal, c'est un patchwork d'un milliard de petites choses, tu vois. Et encore une fois, réussir à cibler ce qui fait sa spécificité exacte et même savoir où il en est socialement et politiquement, même s'il y a des tendances un peu globales, même dans ce que je t'ai dit, en fait, ça pourrait être contredit par des exemples précis dans tous les cas.
C'est pour ça que de toute façon, et là je m'adresse à ceux qui nous suivent, chaque émission, on essaye d'avoir l'ambition de traiter d'une thématique, mais évidemment, elle est traitée à travers un certain regard, une certaine ligne éditoriale, un invité
aussi.
Qui a des avis. Nous, on se repose, c'est vrai, beaucoup sur les invités parce qu'on ne peut pas être expert en tous les domaines, on a un peu de connaissances, mais voilà, c'est une forme de dialogue. Et évidemment, je suis persuadé que si on recevait quelqu'un d'autre avec peut-être des appétences différentes, dans différents styles de métal, il y aurait des discours différents. Mais justement, c'est aussi l'intérêt de la musique, c'est qu'il y a plein de façons de l'aborder et ça nous permet de refaire des émissions même potentiellement sur la même thématique mais avec un autre regard, etc. Donc voilà, ne vous arrêtez pas uniquement à ce qui est dit, évidemment, c'est toujours plus complexe
qu'on ait
que
une
ça.
Femme.
Et ça serait bien, mais ça évidemment, c'est une volonté. On veut inviter plus de femmes dans l'émission, c'est compliqué, mais ça va arriver. La prochaine, il y aura certainement une femme. Parce que le problème du milieu musical, c'est que si tu n'es pas proactif pour essayer d'avoir des femmes, t'en recevras jamais parce qu'elles sont invisibilisées globalement dans ce domaine. Donc, c'est ce qu'on a fait sur la chaîne Monte le son d'ailleurs. On voulait un nouveau format, on s'est dit, il faut que ça soit impérativement une femme, ça sera un critère. Bon voilà, parce que sinon tu les vois jamais, quoi. Bref, mais c'est un autre sujet.
Qu'est-ce que t'es éveillé, Salman?
Tellement woke, c'était génial.
Ouais, woke, je sais
c'est
pas,
génial.
Mais en tout
j'adore.
Cas,
on fait ce qu'on peut.
Il est parti de tout, je peux faire plein de trucs quand même. Enfin, ça c'est un truc important en l'occurrence, c'est la représentativité.
Mais là, par exemple, tu vois, là ici, on a parlé de un petit peu. Tu parlais du sexisme dans le milieu, etc. Je pense que voilà, c'est Maxwell, il est très sympathique et plutôt beau gosse, mais avoir une go pour parler de ce genre de problématique, ça peut être bien aussi, quoi.
Bah c'est pour ça qu'en plus moi je suis assez mal à l'aise pour m'exprimer là-dessus parce que bah en fait moi j'ai jamais subi ce truc-là, je l'ai peut-être observé tu vois autour de moi avec des amis tout ça, mais en vrai tu vois je pense que pour vraiment ouvrir sa gueule sur le sujet il faut appeler les concernés tu vois.
Oui, et c'est pour ça que cette émission était pas sur le sujet hein. C'est juste vous avez vu en fin d'émission je souhaitais quand même qu'on le parle parce que ça me paraissait important de dire qu'il y a aussi ce truc qui traverse le métal, il y a eu pas mal d'articles ces derniers temps.
Oui, il y a Mediapart qui a sorti un article sur les viols en festival bien sûr.
Exactement et si un jour effectivement on doit vraiment aborder ces questions, on le fera avec une femme, mais l'autre problématique c'est on va pas inviter une femme juste pour parler de ça parce que ça aussi c'est embêtant. Donc enfin bon bref, c'est compliqué.
Non mais faut se questionner déjà là-dessus et puis essayer de voilà, de résoudre le problème à son échelle, quoi, en faisant le truc comme on le sent juste, quoi.
Bon, en tout cas, on te remercie, Maxwell.
Oui. Bah, c'est moi, les gars.
D'être venu dans l'émission.
C'était grave cool. Bon, j'espère que j'ai pas trop bafouillé. Puis franchement, ce que vous faites, c'est super bien. Je suis content d'avoir découvert la chaîne parce que c'est bien. Vous êtes éclectique. Vous abordez les sujets de manière sérieuse. Vous laissez le temps aux gens de s'exprimer. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui est important, je pense, quand t'abordes un sujet qui est aussi vaste, c'est de laisser les gens pouvoir s'exprimer. En plus, vous menez hyper bien la barque et tout, dans la façon dont vous rebondissez et tout ça. Bon, Chrono Music, il a essayé de me pécho toute l'émission, c'était un peu relou.
C'est bien normal.
Mais bon, voilà, tu vois, il est là, il représente, c'est cool. Et puis, franchement, clean. C'est clean de vous.
C'est gentil, merci beaucoup.
Bien joué, les gars.
Merci, ça régale.
On en profite pour remercier, parce que cette émission, elle est possible grâce à Thoman, notre partenaire SO Thoman. Donc voilà, on est chanceux de pouvoir faire ça et qui nous laisse la liberté, vous voyez, de parler pendant... Là, on a enregistré quasiment 2h30. Hein.
Oh là là.
L'émission sera peut-être un peu plus courte, mais voilà, pour parler de métal, on a pris le temps. Et puis évidemment, si, peut-être quand même, un petit point, les gars, où c'est qu'on peut retrouver votre travail rapidement, un ou deux liens, ou un ou deux réseaux, je ne sais pas. Maxwell, qu'est-ce que tu veux mettre
Maxwell,
en avant?
Maxwell sur YouTube, tout simplement. Bataille sur Bandcamp, mon projet musical pour les fans de musique de jeux vidéo et de métal et de musique épique et mélodique. Jouer avec des guitares et des synthés. Puis voilà, c'est
top.
Tout. Hein. Si, Codex Metallum, voilà, ouais. le livre qu'on a sorti avec Alt 236, en vente partout, dans toutes les Fnac, toutes les librairies, partout.
Let's go.
Là, qui est sorti aux États-Unis, en Angleterre. Donc, si pour les anglophones, si jamais il y en a,
bravo.
Vous pouvez vous le procurer, voilà. En Outre-Atlantique et en Outre-Manche. je crois que j'ai fait le tour. J'ai forcément oublié des trucs, mais c'est pas grave.
De toute façon, Maxwell, à partir de tes réseaux sociaux, etc., on pourra retrouver, j'imagine, exactement. L'ensemble de ton travail. Donc, n'hésite n'hésitez pas.
Si on a sorti une grosse vidéo sur Magic l'Assemblée sur la chaîne de Alt il y a 10 jours. Là,
c'est vrai, je l'ai pas encore pris le temps de la regarder, mais comme on l'a déjà dit en début d'émission, Alt 236, meilleur youtubeur français. Donc, ça sera forcément bien. Et en plus, il y a Maxwell avec. Et allez, on a déjà parlé aussi en off, mais invitation officielle lancée à Alt. Si tu veux bien venir nous voir, on te reçoit avec plaisir.
Ils t'attendent, frérot. Vas-y.
C'est ça. Et puis voilà, Michel, peut-être un truc à mettre en avant en ce moment.
Bien sûr, je suis sur la chaîne Monte le son. avec un podcast légendaire qui s'appelle Dans le Tempo.
Putain, c'est métal. Oh là là, moi j'ai le cerveau qui va exploser.
Excellente chaîne YouTube. Et puis voilà, vous pourrez retrouver des chroniques de qualité à cet endroit.
T'as écrit un roman là, j'ai vu sur Twitch, t'écrivais un roman.
Oui, j'ai écrit un roman, mais j'arrête pas de faire ma promo tout le temps. Abonnez-vous, abonnez-vous et laissez-moi tranquille. Yes. Abonnez-vous à Monte le son.
Pour moi, c'est parfait. C'est fini. On termine comme ça. Abonnez-vous. Parfait. On est des youtubeurs. C'est comme ça que ça se passe.
Likez, likez.
Merci les gars. Merci beaucoup à tous d'être toujours au rendez-vous. Parlez-en autour de vous et on se retrouve très très vite pour un prochain épisode. Bye bye.